Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce jeudi 23 novembre sur Génération Soccer. Aujourd'hui, une spéciale Ligue 1 un petit peu particulière. Parce qu'on ne fera pas que de la Ligue 1 exceptionnellement. De l'Espagne, de la Belgique. Bien sûr, le Live Ligue 2. Non, il n'y a pas de Ligue 2 cette semaine. Puis, désolé. Donc, avec nous ce soir, qui va arriver, Enarpi.
Salut à tous.
Voilà, donc pour le moment, on n'est que deux. Donc ce soir, on va revenir bien sûr sur la 14e journée de Ligue 1. Et en fin d'émission, on va consacrer une petite partie à l'Espagne et à la Belgique, avec Chris et Habib, car vous savez, il n'y a pas eu d'émission, donc on va revenir sur ces différents points là-dessus. Donc, on va commencer tout d'abord avec les résultats du week-end et la surprise. La surprise, Auxerre est en tête du championnat de France. Donc, toi par exemple, Narpi, qu'est-ce que ça te fait de voir Auxerre en tête alors que tout le monde attendait Bordeaux, Lyon, mais sûrement pas Auxerre?
Ah bah, ça rend nostalgique en tout cas parce que ça nous rappelle la bonne vieille époque de Guérou. Mais ouais, c'est pas forcément une surprise. Alors bon, c'est une surprise forcément de voir Auxerre premier maintenant. On voyait que la fin de saison dernière d'Auxerre avait été trop tonitruante, notamment avec Yellen qui avait enchaîné les buts et Pedretti qui était absolument exceptionnel au milieu de terrain. On pensait au mercato avec le départ de Kallenberg que ça allait être un peu plus difficile puisqu'il avait fait, il était un des grands artisans de la fin de saison dernière. Mais bon, on voit que malgré la blessure de Yellen en début de saison, les Auxerrois ont réussi quand même à tenir un peu le cap. Et puis là, le retour de Yellen a débridé la situation à Auxerre et on voit qu'à l'heure actuelle, ils explosent tout. Et puis bon, bah c'est pas étonnant parce que bon, On les sentait venir. Jean Fernandez, même s'il a été pas mal décrié ces dernières saisons, fait quand même du très bon travail, il faut le dire. Il fait du très bon travail, c'est un très bon entraîneur. On l'a vu notamment à Marseille, où c'est quand même grâce à lui que l'OM a su redresser la barre en 2006. Donc, Auxerre, bon, on sait qu'ils vont pas non plus tenir jusqu'à la fin de saison, parce que les gros vont forcément se réveiller. Bordeaux est dans une mauvaise passe, notamment à cause des blessures, de la Ligue des Champions, de l'équipe de France, avec Gourcuff qui enchaîne les matchs tous les trois jours. Quand tout sera fini avec la trêve hivernale, je pense que Bordeaux, Marseille et Lyon vont reprendre la tête du championnat et puis ça se jouera entre ceux-là. Mais pour la Coupe d'Europe en tout cas, ça risque d'être tendu parce que Auxerre montre de très bonnes qualités et puis on peut parler aussi d'équipes comme Lorient qu'on attend depuis déjà deux saisons avec Gourcuff en haut du tableau. À chaque fois on se dit pourquoi ils sont pas en haut du tableau, et ben cette fois-ci ils y sont. Montpellier qui est aussi la grosse surprise du début de saison, Valenciennes, bon, ce sont des équipes à l'image d'Auxerre qui produisent du jeu et qui pour l'instant tiennent la route.
Personnellement, je vois un petit peu plus loin, je vois à la CAN, tu vois. Et par exemple, moi, je pense que Marseille va être en difficulté pendant la CAN, au vu du nombre d'internationaux qu'ils peuvent avoir. Par exemple, est-ce que toi, Narpi, est-ce que tu penses que Auxerre, avec la CAN, tout ça, et avec les gros cylindrés, entre guillemets, qui vont avoir beaucoup, beaucoup d'absents, est-ce que tu penses qu'un Auxerre peut, par exemple, jouer les 5 premières places?
Les 5 premières places, oui. Les 5 premières places, mais surtout les 2 dernières de ce top 5. Parce que tu parles de la CAN, mais quand on regarde bien au niveau effectivement de la CAN, c'est surtout Marseille en fait. Surtout Marseille qui va être désavantagé, avec notamment le départ de Mbia, etc. Mais oui, Taïwo, Mbia,
Koné,
Yang. Non, je suis pas sûr. Je crois que.
Est-ce que le Sénégal participe à la CAN? C'est la grande question.
Il me semble que non.
Je saurais pas dire. Donc.
En tout cas, Niang et Diawara apparemment se sont un peu frités avec la fédération sénégalaise et sont plus sélectionnés depuis quelques temps. Donc, je sais pas s'ils y vont. Je crois qu'en début de saison, pas mal de Marseillais disaient que cette année, Niang et Diawara iraient pas. Enfin bref. En tout cas, même si Niang et Diawara n'y vont pas, il y a pas mal de joueurs de l'effectif marseillais qui y vont. Donc, ce seront d'abord eux les plus désavantagés. Bordeaux, c'est surtout Chamac en fait. Surtout Chamac qui va faire défaut. Et à Lyon.
Mais on a bien vu que sans Chamac et sans Gourcuff, Bordeaux c'était très poussif. On l'a vu ce week-end. Chamac est sorti après peut-être une demi-heure. Gourcuff était pas là. Et hormis Wendel, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs potentiellement actifs au sein de l'attaque bordelaise. Si je ne me trompe pas.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais enfin, je pense qu'il y a surtout une Gourcuff dépendance, entre guillemets, et que je crois au renouveau de Kavenaghi. Après, je peux me tromper, mais je pense que justement, on a souvent vu cette situation où un joueur flambait et il mettait un peu son concurrent entre guillemets dans son ombre et à chaque fois quand ce joueur en question soit se blesse soit par justement à la CAN, on voit que son concurrent prend vite sa place et montre très vite qu'il a le potentiel pour être dans l'équipe. Et je pense que Kavenaghi va justement profiter de la CAN pour reprendre les choses en main dans l'attaque bordelaise. Et avec Gourcuff, après je peux me tromper, hein, mais il y a quand même pas mal de chances que Kavenaghi saisisse sa chance justement pendant ce mois-là et qu'on retrouve un Bordeaux conquérant et qu'on retrouve justement cette équipe en haut du tableau, même si elle y est déjà. Et cette mauvaise passe n'est qu'un incident de parcours à mon avis. Après on peut aussi parler de Lyon. Alors pour Lyon, je crois qu'il y a Makoun. Il y a Makoun qui en ce moment tient quand même une place importante au milieu de terrain avec le fait que Toulalan est reculé en défense centrale. Mais bon voilà, c'est surtout Marseille en fait. C'est surtout Marseille. Et on verra. Auxerre a la chance de ne pas avoir de joueurs très très importants, il me semble, qui partent à la CAN. Donc ils vont peut-être profiter de ce côté-là pour engranger des points. Mais on sait tous que après le mois de la CAN, il y a toujours ce sprint final. Et dans ce fameux sprint final, depuis quelques saisons, on retrouve les mêmes équipes, et on retrouve notamment la saison dernière avec Bordeaux et Marseille, qui ont fait une fin de saison exceptionnelle, et se sont battus pour le titre, et c'est notamment grâce à cette fin de saison qu'ils ont pu mettre très vite Lyon derrière, et pouvoir se battre tous les deux pour le titre. Et je pense que Auxerre, alors à moins d'une énorme surprise, je pense qu'Auxerre va rentrer dans le rang, entre guillemets, enfin en tout cas, peut choper une petite place en Europa League, sachant que Toulouse et Lille sont très mal en point et que les seuls à peu près à tenir la route sont le Stade Rennais en fait.
Et Monaco aussi qui peut éventuellement être là en outsider.
Ouais, c'est vrai.
Et toi Hugo, toi tu voulais réagir sur Auxerre aussi
Bah, bonsoir déjà à tous, hein. Bonsoir.
Donc, ouais, je vais juste te couper, juste une seconde, je vais juste rappeler à nos auditeurs que via le chat ils peuvent nous laisser des messages et bien sûr réagir à tout ce qu'on dit. Si vous avez questions, analyses, n'importe quoi, vous le mettez sur le chat et vous passerez à l'antenne. Voilà. Donc vas-y Hugo, désolé.
Bah ouais, pour moi aussi, Auxerre peut jouer les troubles faits, ils peuvent même jouer le top 5. C'est une équipe qui ne produit pas un superbe jeu, faut le reconnaître, mais ils ont une qualité de contre qui est franchement de très très bonne qualité, certainement la meilleure en France. Et pour moi, Auxerre va faire mal cette saison, quoi. Parce que comme contre des équipes comme Paris, comme Monaco, comme Bordeaux et tout, qui ne produisent pas beaucoup de jeux, et quand ils en produisent, c'est pas très fameux, c'est du pain de béni pour eux, un petit contre et ça va au fond. C'est une équipe qui est très efficace.
Oui, mais on sait tous que l'efficacité, au bout d'un moment, ça cesse, le facteur chance, à un moment donné, n'est plus avec l'équipe. Et donc on voit par exemple un Bordeaux qui en début de saison marquait sur coup de pied arrêté, je crois, 50% de leurs buts. Cette année, enfin en ce moment, et surtout par exemple, je vais prendre l'exemple de samedi. Et oui, ou de Kavenaghi l'année dernière, qui était un petit peu le renard, qui était toujours là pour reprendre de la tête un coup franc de Gourcuff. Et cette année, c'est plus Chamac, et puis mais malgré tout leur pourcentage de buts sur coup de pied arrêté est redescendu, leur efficacité est redescendue, et ça se ressent un petit peu dans les résultats. Après, je pense pas qu'on puisse assister à un changement fondamental chez les Bordelais. Je pense pas que cette défaite contre Valenciennes annonce un déclin des Girondins, mais peut-être que c'est une période de moins bien pour les Bordelais. Et c'est dommage qu'aucune équipe n'arrive à prendre le dessus. Bon, il y a Marseille qui peut revenir à 2 points d'Auxerre avec un match en moins. Mais malgré tout, on voit que quand Bordeaux est accroché, Lyon également. Et aucune des équipes dans ce qu'on peut appeler le trio des favoris, le BLM, le Bordeaux-Lyon-Marseille, aucune des trois équipes n'arrive véritablement à enchaîner une grosse série en ce début d'année. Bon, Marseille, on a déjà expliqué de multiples fois les raisons. Lyon, je pense que c'est aussi dû au grand nombre d'arrivées cet été. Mais je sais pas si la Ligue des Champions est pour quelque chose, à votre avis. Est-ce que la Ligue des Champions, elle fait surtout que Bordeaux et Lyon, et même Marseille, ont sorti jusque-là des assez bonnes performances, et pour 2 clubs sur 3 sont qualifiés. Est-ce qu'ils peuvent se qualifier et mettre un petit peu de côté malgré tout le championnat, ou du moins perdre des forces qui leur sont précieuses le samedi soir? Je sais pas ce que t'en penses, Narpi.
La Ligue des Champions, elle joue forcément. Parce que là, en plus, on est dans une période très, très bizarre du calendrier, parce que les journées sont décalées, parfois on passe 2 semaines sans jouer, et puis d'un coup on a pendant 2 semaines un match tous les 3 jours. Enfin bref, là on est dans une période très très difficile pour les grosses équipes, parce que bon, déjà il y a la Ligue des Champions, et ça c'est sûr que ça a son importance, surtout pour Bordeaux et pour Marseille. Parce que Lyon a l'air de se qualifier sans problème. Là on va voir Lyon. Je pense que Lyon va laisser un peu de côté la Ligue des Champions après le match contre la Fiorentina, parce que je pense qu'ils vont gagner, qu'ils vont faire le travail. Là ils ont voulu assurer le coup contre Liverpool. Maintenant on voit très bien que ces matchs comptent, surtout pour Bordeaux avec Gourcuff qui se blesse en équipe de France. Qui se blesse en équipe de France, donc qui ne joue pas avec Bordeaux, qui joue tout le match en Ligue des Champions, donc qui rentre en cours de jeu en championnat, donc forcément ça joue, c'est obligé. Donc après, est-ce que quand la Ligue des Champions va se faire un peu moins pressante, donc quand on aura passé les phases de groupe, et quand Marseille sera sûrement reversé en Europa League, ça va sûrement se calmer au niveau des matchs. L'équipe de France ne jouera plus jusqu'en juin, il me semble, pour préparer la Coupe du Monde. Donc là, on verra vraiment le vrai potentiel de ces équipes, et on verra vraiment si elles ont la capacité de prendre la tête du championnat et d'accélérer au bon moment. Là, pour l'instant, on est dans une période où tu sais pas, tu joues contre Valenciennes, tu ne sais même pas si tu peux marquer un but. Donc là, on est dans une période où t'as à aucun moment tu sauras si tu feras un bon résultat. On l'a vu avec Bordeaux, on l'a vu avec Lyon. tout le monde disait que Lyon, en arrivant à Grenoble, tout le monde disait que c'était facile de prendre les 3 points. On a vu le résultat. Il y avait pas mal de joueurs titulaires qui étaient sur le banc. On a vu Sissoko qui était dans les tribunes. Et au final, on se retrouve avec une équipe qui ne se connaît pas sur le terrain, puisque Delgado, Ederson, Kolodziejczak, le retour de Boumsong, bah, ils n'ont pas d'automatisme depuis le début de saison. Et ça, c'est dû aux matchs internationaux, c'est dû à la Ligue des Champions, et c'est dû aussi aux blessures et aux suspensions. Donc forcément, ça a son importance. Après, on verra après le mois de la CAN, quand ces équipes seront au complet, quand tu auras beaucoup moins de matchs dans la semaine, là on pourra voir la vraie qualité de ces équipes. Pour l'instant, c'est complètement normal qu'on retrouve des surprises dans ce championnat, puisque ces équipes-là justement n'ont pas de matchs internationaux et n'ont pas de Coupe d'Europe. Et c'est pareil avec les équipes qui jouent aussi en Europa League. Lille et Toulouse sont complètement à la ramasse en championnat. C'est pas un hasard. Et on connaît la qualité de ces équipes. On sait que au complet et avec des matchs uniquement le week-end, elles seraient largement au-dessus de leur place actuelle. Donc ça a complètement son importance. Il faut pas l'oublier.
Question ouverte. Donc celui de vous deux qui veut intervient, y a pas de problème. Est-ce que vous pensez pas, surtout pour Bordeaux et Lyon en fait, parce que Marseille c'est plus un problème collectif plus qu'un problème psychologique, mais est-ce que Bordeaux et Lyon montrent un petit peu de suffisance en Ligue 1?
Bah pour Lyon, ouais, carrément pour Lyon. J'avais vu une interview de Puel qui disait que la saison passée ils avaient perdu le titre à Barcelone, parce que pour les Lyonnais, la Ligue des Champions était vraiment vraiment très important. Ils étaient lassés de jouer en Ligue 1. Et qu'ils ont perdu à Barcelone, ça les a démoralisés complètement. La Ligue 1 n'a plus aucune importance. Donc je sais pas si cette saison c'est la même chose, mais ça m'a tout l'air, puisque de là à sous-jouer un match contre Grenoble pour un match en Ligue des Champions contre la Fiorentina, où t'es déjà qualifié, où t'es premier, où t'es presque sûr de finir premier du groupe, ça m'en a tout l'air d'être une lassitude de la Ligue 1. Par contre pour Bordeaux, je ne sais pas, parce que ils sont champions que cette saison. Et s'ils commencent déjà à se jouer la Ligue 1, où est-ce qu'on va? Parce que c'est quand même un titre majeur cette saison.
Globalement, moi je suis d'accord avec ce que dit Hugo. Je pense qu'il a il a complètement raison, puisque surtout en parlant de Lyon, parce que les joueurs qui viennent à Lyon, ils viennent pas pour le championnat. Ils savent très bien que le championnat, à l'heure actuelle, s'ils le gagnent, tant mieux, s'ils le perdent, il n'y a pas de problème, tant qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Les joueurs, à chaque fois qu'ils viennent, quand ils font leur conférence de presse, ils disent « je viens pour faire quelque chose en Ligue des Champions ». Ils ont pas encore, ils ont pas l'esprit qu'avaient des joueurs comme Juninho, etc. Parce que eux ont connu des années un peu moins fastes et ont connu la joie du premier titre. Et la joie du premier titre, c'est incomparable avec les autres titres. Là, eux, ils viennent pour jouer la Ligue des Champions. Donc à partir du moment où tu viens pour jouer la Ligue des Champions, tu fais des très bons matchs en Ligue des Champions. Et puis tu lèves un peu le pied en championnat. Et c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. On voit les matchs, on voit la différence des matchs à Anfield, le match à Anfield, et le match derrière, le match contre Sochaux, etc. Donc ils ont le côté de dire, pour l'instant le championnat, on s'en préoccupe pas. De toute façon, on sait que la Ligue des Champions, on y sera, parce qu'on saura mettre le coup d'accélérateur au bon moment, et on saura quand est-ce qu'il faudra enchaîner les bonnes performances en championnat pour creuser un peu l'écart sur les concurrents et pour s'assurer une des trois premières places, une des deux premières de préférence, parce que forcément, ils vont pas tomber tous les ans sur une équipe comme Anderlecht qui les a un peu laissé jouer en tour préliminaire. Donc la Ligue des Champions, c'est leur principal objectif, et ils s'y tiennent. Ils savent que la saison dernière, l'équipe de la saison dernière avait fait l'erreur de lâcher le match, le dernier match contre le Bayern, notamment Juninho et Kriis qui à Florence avaient fait exprès de se prendre un carton jaune pour être suspendu, et ils en avaient vu les conséquences parce que ils avaient fini deuxième et ils avaient joué le huitième de finale contre Barcelone. Donc là, ils vont tout faire pour être, pour s'assurer la première place du groupe, se prendre une équipe, si possible, assez faible, même si on voit que cette saison en Ligue des Champions, il y a pas mal d'équipes qui arrivent deuxième et qui sont de très bon calibre, notamment Barcelone. On verra mardi, ou je sais plus, mercredi, si Barcelone finira premier ou deuxième, ou même se qualifiera, mais je pense qu'ils vont se qualifier. Donc, ils mettent la Ligue des Champions en point d'orgue, ils mettent un peu le championnat de côté, et au final, ça donne des matchs complètement à la ramasse. On l'a vu à Grenoble ce week-end où ils étaient complètement hors sujet et ils n'avaient pas forcément l'air très touchés. On a surtout vu Puel qui limite était arrivé en disant je vous l'avais dit, Grenoble c'était une bonne équipe. Enfin ça on s'en fout, c'est pas le problème. On a vu Kriis qui était un peu révolté parce que lui il fait partie de ces joueurs qui ont quand même eu un certain esprit de championnat et qui savent que le championnat c'est quand même assez important. Les autres joueurs, la plupart des autres joueurs n'en ont presque rien à faire. Eux, ils veulent aller le plus loin possible en Ligue des Champions, se montrer en Ligue des Champions, et après on verra. Donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve ces équipes à l'heure actuelle un peu hors sujet en championnat, et qu'on retrouve on retrouve d'autres équipes beaucoup mieux. Concernant Bordeaux, là-dessus, je serais un peu moins catégorique parce que ils savent que ils ont un titre à défendre et malgré tout, ça a son importance en championnat. Et on verra s'ils arrivent à se qualifier. Je pense qu'ils vont se qualifier. Bah, de toute façon, ils sont déjà qualifiés. Mais on verra s'ils arrivent premier de leur groupe. Marseille, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, c'est complètement différent, c'est un autre problème. Et de leur côté, je pense que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions, ils essayent de jouer sur tous les tableaux et c'est peut-être ça qui leur fait défaut.
Question de même, une question qui peut-être sembler un petit peu bizarre, un petit peu saugrenue, mais est-ce que vous pensez que maintenant que, on va dire que la confiance est quelque peu revenue dans les rangs grenoblois, est-ce que malgré tout pour vous, ils sont condamnés à la Ligue 2? Ou est-ce qu'ils peuvent faire un baroud d'honneur qui les emmène à la 17e place à la 38e journée par exemple?
Moi de mon côté, j'y crois pas trop hein. Donc moi je te le dis en tant que supporter de Grenoble, mais voilà, mais non, j'y crois pas du tout. Voilà, on a toujours pas gagné, 2 points c'est presque rien au niveau comptable. Alors certes, il y a du mieux, il y a de l'envie. C'est clair et net. L'équipe se comporte beaucoup mieux, notamment en défense où il y a beaucoup moins d'erreurs. Maintenant, on a vu la fameuse stat de Canal+ avec Luboya qui a marqué 83% des buts grenoblois cette saison. Luboya, faudra pas compter sur lui trop longtemps. Hein. Donc, certes, il est très bon en ce moment. Mais il est le seul. Les autres sont un peu. Là, c'est plutôt une réaction d'orgueil personnel. C'est-à-dire que là, on n'a pas envie de se faire ridiculiser devant la France entière. Mais là, c'est juste sauver l'honneur. C'est le fameux but quand tu t'es mené 6-0, tu mets le but à la dernière minute, et puis tu dis bon voilà, j'ai sauvé l'honneur. C'est tout. Maintenant, on sait très bien que. Quand les équipes auront fini de nous prendre un peu de haut, mais ça c'est tout à fait compréhensible parce qu'une équipe aussi pitoyable, c'est normal qu'inconsciemment on la prenne de haut et qu'on se dise bon, même s'ils jouent bien, ils vont avoir la chance contre eux et ils vont avoir un peu la chkoumoun. Maintenant voilà, on a pris 2 points en 2 matchs, c'est très très bien. C'est limite si on n'a pas sauvé la saison en faisant match nul contre Lyon, mais on sait très bien que c'est La Ligue 1 est beaucoup trop loin, et d'ailleurs en interne, le staff est déjà en train de préparer la saison de Ligue 2, et là les joueurs sont plus en train de se dire j'ai pas envie d'aller en Ligue 2 la saison prochaine, donc je vais me vendre ma petite personne, et puis voilà, je vais faire un gros match contre Lyon. Je sais qu'il sera médiatisé. Si on fait un bon score, on en parlera dans les médias. Et puis voilà. Maintenant, on sait très bien que là, il y a un déplacement à Lorient. Et le déplacement à Lorient, vu la forme actuelle des Lorientais, on sait très bien que là, c'est devenu mission impossible, parce que le maintien, il se gagne pas contre les grosses équipes, il se gagne contre les concurrents directs. Et pour l'instant, contre les concurrents directs, on n'a absolument rien fait. Alors c'est bien de prendre un point à Monaco, qui est deuxième, se dire on n'a pas envie de battre le record de défaites. C'est bien de prendre un point contre Lyon, en se disant de toute façon on n'a rien à perdre, et puis c'est Lyon, donc voilà, c'est un match de Coupe de France. Maintenant, le match de Coupe de France, forcément tu le joues contre Lyon, mais t'auras pas la même motivation si le match de Coupe de France tu le joues à Boulogne. Donc moi j'y crois pas du tout. On va finir en Ligue 2, et puis ce qui est important à l'heure actuelle, c'est d'anticiper la saison de Ligue 2 et de savoir si la saison prochaine on pourra convoiter les premières places de Ligue 2 et pouvoir remonter dans 2 ans avec de vraies infrastructures, avec un staff dirigeant stable et une équipe qui a quand même une certaine identité entre guillemets, et qui a quand même envie de faire quelque chose avec le club, et pas uniquement se dire j'ai 35 ans, je vais finir ma carrière, donc je vais prendre un dernier challenge, ou se dire la saison dernière j'ai fait une saison pitoyable dans un club un peu plus huppé, et puis je vais essayer de relancer ma carrière. C'est pas comme ça que sur le long terme tu construis une équipe en Ligue 1. Construis une équipe en Ligue 1 avec des jeunes d'abord du centre de formation, et tu construis une équipe en Ligue 1 avec des mecs qui débarquent en disant voilà, j'ai signé un contrat de 4 ans, et les 4 ans, je vais les respecter.
Je vois. Et donc, une autre question ciblée, donc après Grenoble-Monaco pour Hugo. Est-ce que tu penses que là, comme on voit que Monaco n'arrive pas, même s'ils sont pas forcément loin, on voit quand même qu'il y a un écart entre Monaco et les premières places. Je pense que tu pourras pas dire le contraire, mais malgré tout, Monaco est promis, je dirais, à une place qualificative, ou du moins à une place d'honneur, c'est-à-dire dans les 6-7 premiers du tableau. Alors, question bête, est-ce que tu penses que au jour d'aujourd'hui, les Monégasques ont terminé leur saison en assurant quasiment, premièrement le maintien et le ventre mou du classement? Et que maintenant c'est pas juste du bonus, et leur objectif soit pourquoi pas l'Europa League.
Bah franchement, aujourd'hui je dirais non. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe est destinée à jouer le ventre mou. Ce que j'avais pensé il y a quelques semaines de Monaco, c'est une équipe qui se basait surtout sur les individualités, sur la réussite de Néné. Bah aujourd'hui sans Néné, on voit le vrai Monaco. C'est un Monaco pitoyable, qui ne produit aucun jeu, qui même en contre, quand il n'y a pas Néné, quand il n'y a pas Park, et ben se trouve être très inoffensif, et si on continue comme ça, l'Europa League, jamais de la vie. Voilà. Par contre, vas-y.
Non, vas-y, fini. C'est une question intermédiaire, on va dire, mais tu vas peut-être y répondre, donc.
Par contre, il y a du mieux pour Gudjonsson, même si là cette semaine j'ai eu des échos avec une affaire assez bizarre que Gudjonsson depuis 1 ou 2 ans serait en fait un espèce d'alcoolique fêtard refoulé. Il a pris de la pince. Il a une hygiène de vie très très malsaine, et bon. Ça se voit un peu sur le terrain, mais il fait des efforts, il va en cure d'amaigrissement ou je ne sais quoi. Et j'espère que ça va aller mieux. À Auxerre, on l'a vu, je pense qu'Auxerre, ce fut sa meilleure prestation.
Ouais, donc tout d'abord, bonsoir à tous. Et en fait, j'avais une petite question à poser à Narpi par rapport aux dirigeants de Grenoble. Alors moi, j'ai envie de savoir quel est le réel but des dirigeants, parce que j'ai un petit peu l'impression, et bah tu me corriges si c'est faux, que à chaque fois ils revoient tout le temps leur objectif un peu à la baisse, parce que donc le président c'est bien Watanabe ou quelque chose comme ça, non?
En fait l'actionnaire principal c'est Watanabe, et le président délégué c'est Ventier.
D'accord. Donc moi, en fait, ce que j'entendais, c'est qu'au début, il expliquait que il voulait faire de Malgrenoble un des grands clubs français et ensuite un des grands clubs européens. Il expliquait qu'il voulait faire, il voulait créer une sorte de, pas de tunnel, mais d'axe privilégié avec avec l'Asie en rapatriant les meilleurs joueurs asiatiques. Donc pour tout ça, c'est pour faire un grand club. Et à chaque fois qu'il parle, c'est ouais non, maintenant on veut pérenniser le club. Ouais non, on va essayer de pas descendre. Donc en fait, à chaque fois, on voit ça à la baisse. Et donc du coup, est-ce que tu penses pas que justement changer tout le temps de cap, c'est pas ce qui fait un petit peu du mal à de, enfin ce qui fait un peu de mal à Grenoble, parce qu'au final, quand tu te contentes de peu, ben forcément, ben tu as rien quoi.
Ah, c'est sûr que pour l'instant ils sont très lunatiques et que le discours qu'on a entendu en 2004 a complètement changé. Alors on savait très bien que quand ils sont arrivés en 2004 en nous annonçant Monts et Merveilles, on savait très bien que leurs objectifs allaient être difficilement réalisables, mais en fait ils sont arrivés d'une part en faisant un coup de com', et puis surtout ils ne savaient absolument pas dans quoi ils s'embarquaient, et ils pensaient déjà que le club était un club sain, mais c'était complètement faux. C'est-à-dire que les rapaces, on les a depuis 20 ans, et puis il y en a quelques-uns qui continuent à tourner. Donc, le pognon qu'ils ont investi, puisque depuis 2004, ils ont investi déjà 35 millions, ce qui est déjà énorme, et je crois qu'il me semble que c'est le plus gros investissement après Robert Louis-Dreyfus à l'OM. Mais en tout cas, ils ont fait beaucoup d'erreurs, et ils se sont très mal entourés. Alors après, il y a eu la crise qui a fait qu'ils avaient très peu de moyens pour investir dans le club, et les ambitions ont été complètement revues à la baisse, surtout quand ils ont compris que le football français marchait avec une DNCG. Et ça, la DNCG savait pas du tout ce que c'était. Alors ça nous a fait rire d'ailleurs, parce que quand ils se ramènent avec des valises de billets et des dossiers, des relevés de comptes du club en japonais, bah forcément ça fait un peu tâche, et puis ils ont fait un peu n'importe quoi, ils ont perdu beaucoup d'argent, notamment dans les négociations avec Madewis, qui est notre fournisseur, en fait c'est un sous-traitant de Nike, et en fait ils ont perdu énormément d'argent entre les anciens dirigeants, à l'image de Pierre Mazet qui était là jusqu'à la montée en Ligue 1 et qui s'est mis quelques sous de côté dans le budget du club, et surtout ils ont très mal géré le fait que un club de Ligue 1 se construit aussi avec des infrastructures et pas uniquement avec de la poudre aux yeux et quelques recrutements assez flamboyants pour un club comme Grenoble. Et tu le disais tout à l'heure, à propos de la filière japonaise. La filière japonaise, elle a presque jamais existé en fait. On a eu une fois un international japonais qui s'appelle Oguro, et en fait ils se sont rendu compte que cette filiale, elle marchait absolument pas, parce que ils sont pas du tout implantés dans le football japonais. Donc c'est très difficile d'aller chercher des joueurs quand tu ne les connais pas, quand tu n'as aucun contact là-bas. Et surtout quand on a Baltarevic, qui lui a beaucoup un sacré carnet d'adresses dans les pays de l'ex-Yougoslavie, et qu'il a lui aussi imposé son recrutement très pays de l'Est quoi. Donc finalement on se retrouve avec des dirigeants qui sont complètement dépassés, des actionnaires qui ne veulent plus investir et qui laissent faire, c'est-à-dire qui laissent le club aller en se disant voilà, nous ce qu'on va faire, le seul pognon qu'on va investir, c'est juste pour le passage devant la DNCG au centime près, on va boucler le budget chaque année et puis on verra la saison prochaine si on fait mieux. Donc forcément le changement de discours, il était complètement prévisible, dans la mesure où on savait très bien que le club n'avançait absolument pas. C'est-à-dire que on a vu le stade, mais le stade n'a rien fait dans l'évolution du club, à part apporter un potentiel public et augmenter les ressources de la billetterie. Mais c'est rien comparé à ce qu'ils auraient dû faire en amont au niveau des infrastructures, au niveau du recrutement, justement avec cette fameuse filière japonaise. Et donc l'objectif de la Ligue des Champions, il est très très loin, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Et que baver devant des micros ne fait en rien un club de Ligue 1, tout simplement. Donc on a vu que ils n'ont rien fait pour faire avancer le club, et qu'à l'heure actuelle, le prétexte de la crise fait qu'ils n'assument absolument pas leurs erreurs qu'ils ont fait avant la crise, parce que le centre d'entraînement, on l'attend toujours, et ils attendent toujours que ce soit la mairie qui le paye, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient le payer et qu'ils allaient financer un bout du stade. Bon, celles l'ont pas fait, mais à la limite c'est compréhensible, mais ils n'ont investi aucun sou dans le club à proprement parler. C'est-à-dire qu'ils ont un peu investi dans le sportif, ils ont investi uniquement pour boucler le budget, et c'est tout. Donc voilà, ils se sont mal entourés, ils n'ont rien fait pour que le club avance, et ils n'ont rien fait pour que l'objectif de la Ligue des Champions sur 10 années soit effectif. Alors le changement de discours, ils sont obligés de le faire, parce qu'ils peuvent pas maintenant dire on a fait des conneries, mais vous inquiétez pas, l'objectif de la Ligue des Champions, il est toujours en tête, alors que la Ligue 2, elle est assurée. Et que derrière, il n'y a rien qui bouge au niveau des infrastructures. Donc pour l'instant, ils se cachent derrière la crise. Pour l'instant, ils attendent que ça se fasse au niveau sportif. Et puis ils prendront les décisions, espérons, pendant l'été 2010. Et après, on verra. Mais la Ligue des Champions, moi, on n'y croit plus, et on y a presque jamais cru.
En fait, moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit. Je vais faire ça un petit peu par ordre. En fait, je vais... Comme tu as parlé d'Oguro, ça tombe bien parce que c'est un joueur que j'ai vu quelques fois jouer avec l'équipe nationale. C'est pas un mauvais joueur, mais il a donné quoi? Il a vraiment été mauvais ou tu penses que c'est plus le joueur qui s'est pas trop adapté au championnat?
Bah dans l'ensemble, pour ce qu'il est resté moins d'une saison, il me semble. Dans l'ensemble, il a pas été mauvais parce que il y a forcément le problème d'adaptation. Il a mis quelques buts, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le plus gros problème a été que quand il est arrivé, pas mal de joueurs de l'équipe l'ont pas forcément accepté. Notamment Nassim Akrour, qui sur le terrain voyait très bien qu'il avait pas envie de lui faire de passe et qu'il préférait marquer son but. Donc il s'est pas très bien intégré dans le groupe. Il y avait la barrière de la langue, forcément. Il y avait le fait que il arrivait sous le protectorat des dirigeants, et finalement il a un peu déçu. Oui, forcément il a un peu déçu parce que il était pas dans le coup. Il a fait un bon match, c'était contre Bastia où il avait mis 3 buts, mais c'est tout. Et finalement c'est pas forcément de sa faute non plus, parce qu'on lui a pas laissé sa chance une deuxième saison, on lui a pas laissé le temps. On lui a pas laissé le temps, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on lui a absolument pas laissé le temps. Au moment où on a reçu une offre du Torino, il est parti.
Tout de suite, ça, c'est ce que je trouve très con, tu sais, par rapport aux joueurs japonais. Je trouve ça toujours très con, parce qu'en fait, ils arrivent juste une saison, ils sont juste énormes en équipe nationale, ils arrivent en Europe une saison, ils sont mauvais, on les renvoie chier tout de suite. Et ça, j'ai trouvé ça con, parce que, bon, alors, nous, on a l'exemple marseillais de Koji Nakata, qui a été pathétique, certes, mais je sais pas, moi, un mec qui est bon pendant 5-6 ans d'équipe nationale, tu le vires pas parce qu'il a été mauvais sur 6 mois, quoi. Tu peux lui donner plus de chance. Et on se rend compte qu'au final, ceux à qui on a donné un peu plus de chance, comme par exemple Nakata, Nakamura ou Matsui, ben au final, ils sont bons. Donc moi, je trouve que c'est peut-être pas... faut peut-être pas dire comme ça d'emblée, non, il faut pas prendre de japonais, il faut peut-être plus les cibler. Et quand je dis japonais... Pas juste japonais, mais les asiatiques, hein. C'est pareil pour Park Chuyong. Tout le monde disait au départ, c'est un sud-coréen, qu'est-ce qu'on s'en fout de la Corée du Sud, tout ça. Au final, c'est un des meilleurs joueurs de Monaco. Donc moi, je pense qu'il devrait peut-être faire un peu plus. Et après, moi, quand tu me dis que Nassim Kroll, il l'a un peu pourri, ça m'étonne pas, parce que lui, c'est une belle tête de con. Il a été viré de l'équipe d'Algérie pour ça, hein. C'est le genre de mec qui, parce qu'il joue en France, il se l'a pété, donc tu vois. C'est malheureusement c'est peut-être un bon joueur, mais c'est le mauvais compagnon d'équipe. Et après, par rapport donc pour revenir à, ce que je disais, à ma question principale, l'ambition des dirigeants. Moi, là où je te suis pas forcément, c'est, enfin, c'est pas toi que je ne suis pas, mais plutôt les dirigeants, parce que je pense que ils peuvent changer l'objectif à long, à court terme, mais pas celui à long terme, parce que dire, tu vois, d'une année sur l'autre que on veut la Ligue des Champions, puis ensuite non, on veut juste rester en première division, c'est quand même une nette baisse des, de pas de motivation, mais d'ambition. Et du coup, forcément, quand tu veux recruter des joueurs, ben c'est beaucoup moins intéressant. Parce qu'un joueur à qui tu expliques une année, quand tu le prends, qu'en fait tu as envie de monter un super gros club avec, avec des investisseurs japonais, tout ça, ben forcément il est intéressé. Et puis quand un an plus tard tu lui expliques qu'en finalement non, on veut juste devenir un club lambda en Ligue 1, ben forcément ben, y a la motivation qui s'en va. Et c'est peut-être pour ça que maintenant ils ont, Grenoble a vraiment énormément de mal à recruter des joueurs. Parce que quand tu vois un petit peu les joueurs qu'ils ont pris cette année, sans leur faire un jour, c'est quand même des troisième ou quatrième couteau, hein. Le dernier Louboya, moi on a beau me dire ce qu'on veut, pour moi il est cramé de chez cramé, quoi. Hein. C'est pas parce qu'il marque un but ce week-end que c'est un bon joueur. Donc voilà, moi je pense qu'il devrait peut-être faire un petit peu, pas non plus clamer haut et fort comme les Lyonnais qui vont détruire le monde, mais peut-être juste de montrer un poil plus d'ambition.
Ouais, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Et enfin, le manque d'ambition, enfin la régression dans l'ambition au fil des années, s'explique aussi par le fait que au fil des années, ils ont compris de mieux en mieux le fonctionnement du football en Europe et ont compris que des objectifs comme ça, ça s'annonçait pas comme ça et ça se faisait pas aussi vite. C'est-à-dire que la première année, ils ont annoncé la Ligue des Champions, ils sont arrivés, on a fini 8e de Ligue 2. Bon, ils ont compris que même la Ligue 2, c'est pas si facile. On est monté en Ligue 1. Déjà, pour monter en Ligue 1, on a eu énormément de problèmes avec la DNCG, comme je le disais tout à l'heure. Et ils ont compris que le niveau de la Ligue 1 n'était en rien comparable avec, avec ce qu'ils avaient imaginé. Donc, au fil des années, ils ont compris que l'ambition qu'ils avaient annoncée, et c'est justement la principale erreur qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé d'énormes ambitions et ils n'ont pas pu assumer derrière, que ce soit financièrement ou que ce soit au niveau du sportif. Donc c'est sûr que pour le recrutement, ça fait chier. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, le recrutement qu'on fait depuis 2 ans, même si les mecs, on leur avait dit, de toute façon, on va quand même descendre en Ligue 2, dès le début, ils seraient venus. Parce que les types qui sont arrivés, c'est juste des mecs qui avaient envie de relancer leur carrière, ou en tout cas de finir leur carrière pépère. C'est-à-dire que c'était des mecs qui sont venus pour eux. C'est pas des mecs qui sont venus en disant « j'ai envie de construire pour le club ». Eux, ils sont juste venus pour relancer leur carrière. Matsui, Sojé, Calvé, des mecs qui ont fait des saisons pitoyables la saison dernière, et qui sont venus pour dire « je vais flamber avec ce club ». Même s'il descend en Ligue 2, je m'en fous. De toute façon, si je flambe avec ce club, je serai recruté par un club de Ligue 1. C'est pareil pour les mecs qui ont 33 ans et qui se disent bon, de toute façon, moi j'ai déjà la trentaine bien passée, j'ai une belle carrière. Je vais finir cette saison en Ligue 1 et puis après on verra. C'est des mecs qui marchent au court terme. C'est pas des mecs qui se disent je vais construire pour le club. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans notre centre de formation, on a très peu de jeunes joueurs qui sont présents et qui se disent, moi, je vais rester dans le club et je vais construire. Non. On a un centre de formation pitoyable et la plupart des jeunes de la région grenobloise, eh bien, ils sont dans les autres clubs de la région, notamment Lyon, avec Yanis Taffer. Donc bon, là on est dans une situation où à aucun moment les joueurs sont là pour le club. Ils sont juste là pour eux. Et puis la saison prochaine, on verra. Donc forcément, tu peux pas aller loin et te dire que sur le long terme, tu auras une équipe compétitive. Parce que la saison prochaine, on va encore faire un mercato avec 10 arrivées, 10 départs et puis c'est tout. Ben voilà.
puis bah, j'ai une petite dernière question. Est-ce que la rivalité avec Lyon, elle est réelle ou c'est juste, en gros, pour créer du buzz?
La rivalité de avec Lyon, c'est de la branlette. Tout de suite.
D'accord, parce que moi, s'il y a peut-être une solution, hein, tout comme c'est pourquoi, si justement la rivalité elle n'est pas si intense et pas si réelle entre guillemets que ça, pourquoi pas avoir un partenariat avec l'OL, histoire de prêter les meilleurs joueurs. Bon, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Sandy Payot, mais un mec comme Yannis Taffer, par exemple, c'est quand même mieux pour lui de jouer toute une saison à Grenoble où il serait pas titulaire indiscutable, mais tout comme que bah, jouer 4-5 matchs, bon, ils vont en jouer une dizaine ou une quinzaine en fin de saison. Donc voilà, je sais pas si c'est pas... Mais je voulais savoir si c'était une vraie rivalité ou bon, c'est la rivalité entre guillemets à la française où on essaie de monter du buzz entre deux clubs.
Oui, de toute façon, au niveau de la rivalité, c'est que dalle. Hein. De toute façon, il n'y a jamais eu de rivalité sportive entre les deux clubs, puisque Lyon et Grenoble ont toujours été à des échelles différentes au niveau des divisions. Donc bon, il n'y a rien. C'est juste de la branlette de jeunes qui se disent « moi, j'aime pas l'OM », et la plupart du temps, c'est parce qu'eux, ils supportent un autre club, ils supportent Paris et Marseille, et donc ils détestent l'OL. Et puis après, ils vont se dire « je supportais Grenoble ». Enfin bref, il n'y a aucune rivalité entre les deux clubs. Au niveau des supporters, il y a que dalle, voilà, c'est de la petite rivalité. Voilà, c'est de la petite rivalité de quartier, et puis voilà, c'est que dalle. Donc c'est la rivalité de clocher, quoi.
Parce que comme l'a dit Hugo, tu vois, où il dit ce serait mieux que de vendre à Nice avec des clauses de merde, tu vois, ça c'est par exemple une bonne idée, ou alors faire un peu ce que fait le Real, où avec Retafé, en gros, ils le revendent à 2 millions, mais avec une option de rachat dans les 2 ans à 3 millions. Donc en gros, les deux clubs sortent ben, vainqueurs, parce que d'un côté, Retafé gagne de bons espoirs, et si jamais le Real les rachète, ben, ils font quand même du bénéfice. Donc moi, je pense que ça peut être ben, déjà une petite solution qui peut être intéressante.
Ouais, bah de toute façon on y avait pensé il y a 2 saisons, on en avait déjà pas mal parlé avec justement le prêt de Payot, et Bazdarevic avait dit que pourquoi pas pouvoir se faire prêter pas mal de joueurs de Lyon, et justement le petit affaire qui est en manque de jeu à Lyon. Et
on annonce aussi par exemple Gassama, c'est bon, d'après ce qu'on nous dit c'est des bons joueurs. Bon, Gassama, à chaque fois que je le vois il se fait littéralement violer sur son côté, mais après c'est toujours pareil, c'est ce que je disais sur Anzi il y a quelques jours, c'est que évidemment si tu juges les performances de Gassama à l'OL, bah tu seras très très strict, alors que si tu juges les performances de Gassama comme joueur de Grenoble, bah forcément tu es plus clément, et puis d'un autre côté il a moins de pression, parce que bah quoi qu'on en dise, à part les super pas génies mais presque, hein, les surdoués du foot comme Benzema tout ça, bah les autres ils s'imposent pas à Lyon à 19 ans, quoi.
Ouais, bah de toute façon ces joueurs-là auraient largement leur place dans le groupe grenoblois, et au fil du temps auraient fait leur place dans l'équipe titulaire, et ça c'est clair. On en avait déjà parlé il y a 2 saisons. Le problème en fait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en compte et qui ont un peu d'une part un peu frité les Lyonnais contre les Grenoblois au niveau de Sandy Payot. C'est que en fait les négociations pour son achat, parce qu'à la base c'était un prêt et on a négocié son option d'achat qui était à 2 millions, on a voulu l'acheter 1 million, et ça a pas mal abîmé les relations qu'ont les deux clubs. Alors pendant un temps, Aulas, au moment où on parlait d'ouverture du capital du club, Aulas s'était proposé en disant que il voulait bien prendre une petite part du GF38, en se disant que voilà, ça allait faire comme le Real et Retafé, ça allait faire, on allait être une sorte de filière,
succursale même pour.
Ouais, voilà.
Non, mais parce que surtout que tous les gros clubs font ça, tu vois, la Juve avec Empoli, c'est pareil, donc tu vois, ils prêtent tout le temps leurs joueurs, alors.
Et Marseille aussi, on l'avait avec Bocali, Sabo, etc.
Libourne aussi, ça marche bien.
Ouais, voilà, donc c'est sûr que on peut parler aussi, voilà, pas d'un axe d'élite comme avait parlé Diouf et Aulas il y a quelques mois, mais oui effectivement ils nous prêtent leurs jeunes, et puis si on a un jeune qui explose chez nous, ils auraient déjà une petite option sur lui. Donc c'est sûr que ça aurait pu être intéressant, mais il y a aussi le fait que Bazdarevic de son côté avait aussi sa filière yougoslave et voulait lui de son côté travailler là-dessus, plutôt là-dessus que travailler sur des jeunes qui évoluent en France. Et donc à ce moment-là, on parlait pendant un moment au niveau du mercato hivernal dernier de Pjanic. Et finalement, il y a aussi le fait que les joueurs eux-mêmes ne veulent pas baisser leur salaire. Et Lyon n'a pas tellement envie de prêter un joueur et de payer une partie de son salaire. Et c'est là qu'aussi le problème, c'est que nous, on n'a pas les moyens même de payer le salaire de Taffer. Parce que Taffer, il a signé un contrat pro, tout en sachant, Ola savait que en signant ce contrat pro, le petit Taffer, il avait beaucoup d'avenir et il a un gros salaire comparé à ce qu'on peut trouver dans l'équipe de Grenoble. D'ailleurs, Payot, en arrivant à Grenoble, a baissé son salaire. Alors que quand il était à Lyon, il a dû jouer 15 minutes en Ligue 1. C'est tout. Donc forcément, là, il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte et qui ont un peu abîmé cette voie qui aurait pu finir gagnante, gagnant-gagnant en tout cas pour les deux clubs. Mais bon, je pense que ça pourrait se faire. S'ils y mettent du leurre des deux côtés, ça pourrait se faire. Surtout que nous, on va descendre en D2. Et que Ola avait dit, malgré tout, quand on était en Ligue 1, on était quand même une équipe un peu concurrente, et qu'il préférait prêter des jeunes en Ligue 2. Ça tombe bien, on y vient. Donc pourquoi pas prendre quelques joueurs du centre de formation de l'OL. Le petit Yannis Taffer, on sait très bien que s'il nous le prête la saison prochaine, on peut presque être sûr qu'il fasse une grosse saison et qu'il nous aide à remonter en Ligue 1.
Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu à peu près fait le tour sur Grenoble, sauf à moins que quelqu'un ait envie de rajouter quelque chose.
Ouais, bah il y a une réaction sur le forum de Sensei qui dit il y a pas mal de bons joueurs en CFA, Grenier, Real, Cour, Lacazette, Taffer, Belfodil, Mehama, qui ferait du bien au GF38. Donc ouais, c'est clair que ça peut faire que du bien.
J'ai surtout envie de dire que tout est bon à prendre, dans le sens où les deux équipes seraient gagnantes. Mais on va pas revenir sur ce débat-là. On est d'accord pour dire que la plupart des bons jeunes de Ligue 1 ça serait profitable qu'ils fassent une année ou 6 mois de prêt à Grenoble en jouant. Mais bon, voilà, on a fait le tour, je pense, sur Grenoble. Donc on va peut-être passer à Paris. Paris qui avait avant le Classico. Paris avait soit en cas de victoire la possibilité de raccrocher un petit peu au wagon de devant, et en cas de défaite s'engluer dans la deuxième partie de tableau. Et on se rend compte aujourd'hui que Paris, au moins de ce qu'ils nous ont montré vendredi soir, Paris ne mérite pas mieux que cette 13e place. Et bizarrement, alors que les années précédentes, à peine la 10e place arrivée, on criait déjà au scandale et à la démission de l'entraîneur cette année, on semble un petit peu plus réfléchi dans la réaction des supporters, et on réclame plutôt des joueurs que de Comboiré qui a plutôt même les faveurs du public parisien. Donc, est-ce que pour vous, ce changement de situation et de mentalité fait que Paris est maintenant soit à l'habitude de jouer cette place-là, et que les supporters s'y soient fait, malgré que l'année dernière il y a eu un petit regain de forme, ou alors est-ce qu'enfin Paris aurait trouvé le bon entraîneur et qu'ils auraient compris que ça serait malheureux de s'en débarrasser. Je vous pose la question.
Bah, Paris, pour l'instant, c'est sûr que est loin de rester sur la lancée de la saison dernière. Maintenant, est-ce qu'ils ont pris l'habitude de jouer cette place? Est-ce qu'ils sont à leur place? Je pense pas. On savait très bien que par rapport à la largeur d'effectifs, ils allaient pas pouvoir concurrencer les trois gros, Bordeaux, Lyon, Marseille. Maintenant, ils sont pas à leur place du tout. Sur le papier, ils sont pas du tout à leur place.
Et mais le papier, c'est pas le terrain. Je veux dire, quand on regarde leur
match, non, c'est clair.
Au-delà de ça, moi, j'aimerais bien que Martin m'explique pourquoi ils sont pas à leur place.
Mais ils sont pas à leur place parce que il suffit de voir. Moi, je te parle juste du 11 titulaire. Quand tu regardes le 11 titulaire.
C'est parce que moi, quand je vois le 11 titulaire, je me dis qu'au final, bof.
Oh, 13e quand même.
13e, non, mais 8e, 9e.
Ouais, non, mais, ah oui, non, mais après, on peut dire que, ils peuvent
être. Le problème du PSG, c'est qu'ils ont plein de joueurs surcotés. Tout simplement. Les Clément Chantôme, il y a 3-4 ans, depuis que Wenger avait expliqué qu'en fait il y avait plein de super gamins quand ils avaient joué le tournoi Emirates, et ils se sont tous lâchés sur le craquage, mais n'importe quoi. On a pu entendre aussi que Mulumbu était poursuivi par Arsenal et Chelsea. 6 mois plus tard, il finit à Milan. Ensuite, on m'explique que Loris Arnaud était courtisé par le Real Madrid. Franchement, n'importe quoi. Yannick Boly, pareil, il a eu un petit problème. On m'a expliqué qu'il était courtisé par le Real Madrid. À part un petit article où il disait que le Real Madrid avait juste... ils l'ont supervisé une fois et puis ils sont revenus. Ils l'ont jamais resupervisé. Donc voilà, pour moi, c'est ça le problème du PSG. C'est qu'on nous explique qu'ils sont tous forts. Pareil pour Cécile, on en a parlé vendredi soir. Moi, tous les joueurs du PSG, on m'explique tous qu'ils sont tous super forts. Et au final, quoi? On est en train de m'expliquer que celui qui était censé faire la différence, c'est Erding. Pourquoi? Parce qu'il a marqué 11 buts en Ligue 1. Bravo, hein. Putain. Si maintenant, c'est des mecs de 11 buts par saison, des attaquants, hein, qui marquent 11 buts par saison, qui doivent changer une saison, moi, je sais pas. Franchement.
Ouais, non, mais...
Différemment, j'aimerais bien voir ton...
Mais, non, mais moi, après, moi, je te parle pas de très, très bons joueurs. Je te parle juste que 13e, c'est pas leur place. On n'est pas là, ils ont pas une équipe qui est faite pour limite jouer le maintien. Bon, c'est sûr que Juli, c'est plus le Juli du Barça. Erding, c'est sûr que 11 buts à Sochaux, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. C'est sûr que Oaro, on attendait la confirmation et pour l'instant, à part être blessé et rater ses ballons, il fait pas grand chose. Mais bon, quand même.
Il est tout le temps blessé. C'est peut-être le seul. On va dire, là où je suis un petit peu clément par rapport au PSG, c'est que je me dis finalement, ils perdent quand même leur meilleur joueur. Donc c'est peut-être. On a bien vu que quand Marseille ou quand Marseille, Bordeaux perdait Niang ou Gourcuff, c'était plus du tout pareil.
Oui, non, mais bon, voilà. Globalement, l'équipe, à l'heure actuelle. Moi, j'ai trouvé très bon j'allais dans ses entrées. Alors maintenant, de là le mettre titulaire, je pense pas. Je pense qu'il est très bien en joker entre guillemets, ou quand il faut faire la différence dans la dernière demi-heure, il a été très bon dans ce rôle lors des premiers matchs de la saison. Maintenant, bon, le 11 titulaire, il a pas énormément changé par rapport à la saison dernière. T'es d'accord? Bon, à part Roten, mais bon, Roten, bon voilà, Roten est facilement remplaçable entre normalement. Louindoula dans le couloir gauche se débrouille pas trop mal. Bon, voilà. Globalement, l'équipe a pas changé. Donc
et c'est ça justement. C'est tous des joueurs qui sont. Il y a pas de joueurs qui sont vraiment mauvais. Là, je suis d'accord avec toi, ils sont pas mauvais. Mais c'est pas bof, mais presque, quoi. Moi, quand on m'explique que Erding, c'est un super attaquant, alors moi, par exemple, pour prendre un petit club, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que Erding a de plus que Gamero, par exemple.
Rien. Gamero,
on voit pas. Il a marqué 11 buts aussi, Gamero, l'an passé. Et il a 6 buts cette année, déjà. Alors, à part si moi, je me suis trompé en ayant vu de fausses stats pour Erding, sinon, moi, ce que je vois, c'est bof, quoi.
Non, mais de toute façon, Gamero, là-dessus, je pense que tout le monde, chaque personne sensée et claire et nette, peut dire que Gamero est largement meilleur qu'Erding, est beaucoup plus complet.
Largement, quand même pas, mais...
Ah bah, enfin, moi, personnellement...
On va juste dire, meilleur, si tu dis largement plus, t'es sûr que tout le monde va te pourrir.
Ah ouais, mais ça, bon, ça, c'est un problème, ça, c'est un autre problème, c'est un problème de fanatisme. Bon, maintenant, non, mais moi je pense que Gamero, oui, est meilleur que Erding, ça c'est clair. Maintenant, bon, Erding, ceux qui s'attendaient à ce qu'il fasse une énorme saison se sont complètement trompés. Il est pas là pour faire la différence et pour être le mec qui va te planter 25 buts dans la saison et faire du PSG une grande équipe. Pour l'instant, le PSG c'est pas une grande équipe, c'est clair. Maintenant, de là à dire que à la 13e place c'est sa place, non. Moi, je pense que la place du PSG à l'heure actuelle, c'est la même que la saison dernière. C'est-à-dire que c'est entre
en gros aucune, voilà. Donc c'est première partie de tableau, on va dire fin de première partie de tableau, quoi.
Voilà, c'est entre la 6e et la 9e.
C'est ce que j'ai dit, moi, c'est ça, ouais. Grosso modo, soit c'est l'équipe qui joue l'Intertoto, voire l'Europa League sur un coup de chance, mais bon, presque.
Ouais, ou l'Europa League, car ils ont encore gagné la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France sur des tirages.
C'est là où ils sont vraiment forts, au final. Là, pour le coup, ça, c'est vrai que on parle souvent d'équipe de coupe, cette expression un peu bidon, mais c'est vrai que le PSG en coupe, ils sont quand même très costauds.
Bah, c'est sûr qu'ils ont le côté de dire sur un match on peut faire la différence, mais sur toute une saison ils ont du mal à être réguliers, ça c'est clair. Maintenant, bon, voilà, on disait tout à l'heure que la place du PSG c'était la 13e, non, c'est pas la 13e. Ils ont pas une équipe pour être dans les 4 premiers, mais ils ont une équipe, pourquoi pas, pour être au maximum 5-6e. Maintenant, voilà, 13e, il y a aussi le fait, c'est quand même la barre symbolique de la 10e place. 13e, t'es limite dans le wagon, dans le dernier wagon, quoi. T'es dans l'équipe qui s'est sauvée au mois de mars. Et puis voilà. Donc moi, je pense qu'ils vont quand même, se ressaisir. Ils vont grappiller encore quelques places. Maintenant, de là à aller jusqu'à la 4e ou la 3e place, ça se fera pas. C'est clair et net, ça se fera pas. Mais bon, l'équipe a quand même montré quelques qualités. On l'a vu face au Mans à domicile. Bon, même si en face il y avait Cyriaque Louvion. Maintenant, voilà, c'est quand même une équipe qui a sur le papier et sur le terrain, quoi qu'on en dise, une certaine qualité et qui mérite pas non plus d'être à la 13e place. Pour revenir à Comboiré,
franchement, essaye de regarder l'effectif du PSG. Je te donne l'effectif du PSG, c'est pas si impressionnant que ça au final.
Bah, c'est pas impressionnant. C'est clair que c'est pas impressionnant. Mais bon, voilà, il y a quand même des bons joueurs. On peut pas dire qu'ils ont une équipe, en tout cas le 11 titulaire. Ils ont quand même recruté quelques joueurs pour compléter un peu le banc. On voit avec Jallet, bon.
Ah, lui, c'est un vrai bon joueur de Ligue 1, lui, c'est vrai.
Voilà, bon, c'est quand même, ouais, c'est une certaine valeur sûre. Ils ont recruté des valeurs sûres. Maintenant, ils ont pas recruté des foudres de guerre. C'est clair et net. Mais bon, faut dire aussi que leur budget au mercato était pas très élevé. Donc, ils se sont un peu battus pour garder Ouaro. Ils se sont battus pour garder ces saignons. Voilà, ils ont dépensé du pognon. Derrière, faut garder Julie, faut garder Makelele, essayer de le convaincre quand même de rester une année de plus, même si on se rend compte qu'en ce début de saison, Makelele, finalement, Gourcuff, il est pas si loin de la vérité. Bon, mais bon, ils ont une équipe qui, pour l'instant, est une bonne équipe de Ligue 1, mais sans plus. C'est pas une équipe avec un effectif qui pourra faire la différence en Coupe d'Europe. C'est pas une équipe, voilà, pour moi, la saison dernière, leur quart de finale de Coupe de l'UEFA, bah, c'est très inattendu. Ils ont pas l'effectif, la largeur d'effectif pour être sur les deux tableaux. Et d'ailleurs, c'est un peu à cause de ça qu'ils ont pas pu tenir la route et qu'ils ont fini après les places européennes. Maintenant, je pense que cette saison, on le disait en début de saison, qu'ils avaient l'avantage par rapport aux autres de pas jouer de Coupe d'Europe. Bon, l'avantage, ils l'ont pas par rapport à Marseille, Paris et Lyon. Ils l'ont par rapport à Toulouse et Lille, qui sont
pourquoi en ce moment. Ils l'auraient par rapport à Toulouse et Lille. Enfin, surtout Toulouse. Moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi, ou alors quel serait parmi l'effectif du PSG les Sissoko, les Mbengue, les Capou, les Gignac.
Bah, ils l'ont tout simplement parce que.
En gros, l'équivalent.
Bah, non, mais c'est pas une question d'équivalent. C'est une question que, là, on voit, on regarde le classement, Toulouse est à la ramasse. Voilà, tout simplement. Ils profitent du fait que Toulouse joue l'Europa League pour pouvoir croire à une hypothétique place en Europa League. Alors c'est sûr qu'ils se chient dessus en ce moment les Parisiens, mais on voit aussi que Toulouse est pas du tout en forme, est pas du tout en forme. Alors c'est sûr que si Toulouse avait pas joué,
le PSG, ils sont peut-être pires en ce moment le PSG.
Ils sont plus mauvais que Toulouse dans le jeu.
Ils sont plus mauvais que Toulouse. Pas que dans le jeu, mais même sur les dernières performances, il n'y a franchement pas de quoi s'emballer.
Bah, et c'est justement là le problème. C'est pas une question d'effectif.
Bon, si, pour moi, c'est lié parce que. Alors, regarde, moi, je suis sur le site officiel du PSG. Alors, je te donne juste les joueurs qu'il y a. Hein. Bon, je te donne pas les trois gardiens, on sait qu'il y a coupé. Après, les doublures, on s'en fout un peu. Ça donne. Ça passe. Cinco, c'est un futur grand. Gourillon, bof. Tout, Traoré. Alors là, lui, c'est plus que bof, hein. Camara, faut voir ce que ça va donner d'autres blessures. Armand, il est en nette perte de niveau. Ouais. Maconda, sans commentaire. Jallet, on en a déjà parlé. Ensuite, tu as Makelele, Cessignon, Ngoui, Chantôme, Clément, Sankaré, milieu de terrain. C'est monstrueux, ça. Hein. C'est franchement pas terrible. En plus, tu parlais de prolonger Makelele. Avec ce qu'il touche, je pense que vaut mieux le laisser s'en aller, lui proposer un poste dans le staff, parce que là, il sera vraiment efficace, parce que je pense que si tu es le petit Lorientais que Makelele t'appelle pour te dire que son PSG te veut, t'as peut-être tendance à le choisir lui plutôt que Marseille ou plutôt que Lyon, parce que c'est Makelele. On sait l'importance qu'il a en France. Et ensuite, les attaquants, Djouli, Mindoula, Oaro, Arnaud, Erdi, je vois franchement pas en quoi cet effectif, ben justement, n'est pas critiquable entre guillemets, parce que sur le 11, si on faisait une sorte de 11 type, tu as Coupé qui est pas trop mal, Sako qui est très bon, même si cette saison je trouve qu'il est un petit peu moins bon que l'an passé, mais là c'est déjà plus personnel. Sur les ailes, tu as Seara, Armand qui sont pas des génies. Et Armand est en plus en train de devenir pas terrible du tout. Plutôt celui qui accompagne Sako en défense centrale, au final, ça reste un second couteau. Et puis au milieu de terrain, c'est Seignon qui est bon une fois sur trois. Clément et Chantôme qui font le job sans plus. Makelele, j'en parle même pas. Je suis pas objectif. Et ensuite, Djouli, Djouli, Mindoula. Là, c'est pareil, hein, c'est des seconds couteaux au final. Donc, moi, honnêtement, je pense que si, justement. L'effectif du PSG est critiquable.
Mais, oui, il est critiquable. Mais il est critiquable si tu dis que le PSG doit finir dans les 5 premiers. Là, à l'heure actuelle, si on dit que le PSG doit finir à la 7e ou à la 8e place, ils ont l'effectif pour finir à cette place.
Bon. Oui, mais le problème, c'est que justement, moi, je n'adhère pas à ce propos-là, quand on dit qu'ils doivent finir, ça c'est parce que l'effectif fait qu'ils doivent finir à la 8e place. Mais en début de saison, ils ne parlaient pas de la 8e place pour le Paris Saint-Germain. Si tu dis toi-même qu'ils ont recruté, donc ils ont renforcé l'effectif, et que l'an passé, ils nous parlaient de l'objectif secret, on sait quasiment sûr que l'objectif secret, c'était la Ligue des Champions. Donc oui. Là, ils l'ont renforcé, et au final, ils disent que maintenant, après avoir renforcé l'effectif, ils veulent faire une saison moins bonne que celle de l'an passé. Donc c'est là que je suis pas d'accord, parce que au final, la 8e place, tu vois, ça c'est toi et moi qui le disons, mais c'est pas ce que disent les dirigeants du PSG.
Ouais, mais là après on part dans l'incompétence des dirigeants, on part dans le fait que ces mecs-là n'y connaissent absolument rien et croyaient qu'en recrutant Jallet et Harding, ils pouvaient cette fois-ci atteindre l'objectif. Moi, l'enflammade autour du PSG, on la connaît. On sait tous que quand les mecs recrutent le futur grand attaquant turc, tout le monde dit que ça y est, le
après,
PSG...
Après, il a 22 ans, donc...
Oui, enfin bon, quand même...
Que je ne de rien pour un mauvais joueur, mais c'est juste pas le mec qui va tout déboîter, on est d'accord.
Ouais, voilà, puis je pense malgré tout que Erding, J'avais des doutes, moi, personnellement, quand il est arrivé au PSG. Je pense que sa marge de progression, elle n'est pas non plus énormissime. Voilà, donc maintenant, oui, ça reste un bon joueur de Ligue 1. Ça reste un joueur qui va te planter 10 buts cette saison, voilà. Mais bon, l'enflammade autour du PSG, on sait tous comment aller. On sait tous que chaque saison, tout le monde dit que le PSG, c'est la bonne année, c'est la bonne année, c'est la bonne année. Maintenant... Les gens sont déçus, bah oui, mais les gens sont déçus, mais fallait s'y attendre. Maintenant, de là à dire que 13e, ou enfin dans ces eaux-là, serait la place du PSG, c'est là où je réagis. C'est-à-dire que non, le PSG n'est pas à sa place à l'heure actuelle. Il n'est pas à sa place.
Ils sont deux, alors on va dire ils sont trois ou quatre places en. C'est pareil pour moi, hein. Parce que de toute façon, moi je découpe ça plutôt comme, si tu veux, ceux qui jouent le titre, la Ligue des Champions, l'Europa League, l'Intertoto, et basta quoi. Enfin, l'Intertoto ça n'existe plus, mais ce qui était avant l'Intertoto, et ensuite, les équipes qui veulent se maintenir, peut-être. Au final, bah, en plus on dit que c'est pas vraiment leur place, bah, si tu enlèves l'an passé, si, c'est leur place ces dernières années, hein.
Ouais, mais justement, par rapport à il y a deux ans, l'équipe, tu l'as quand même vu évoluer.
Moi, je suis pas d'accord avec cette lubie-là. Hein. Et là, je le redirai à chaque fois qu'on va parler du PSG. C'est pas parce que Daniel Riolo a dit qu'il y avait du changement qu'il y a eu du changement. Hein.
Oh, je savais même pas que Daniel Riolo avait.
Non, mais je parle pas de toi
personnellement. Ouais, non, je sais.
Je te ressens un petit peu le discours des fans du PSG. Parce que Daniel Riolo a décidé que Paul Le Guen c'était un incompétent fini. Mais pourquoi c'est un incompétent fini? Pourquoi il serait supérieur?
Et surtout qu'il aligne exactement le même, il aligne exactement voilà, le même système.
Il a même les joueurs que Camboire voulait, que Paul Le Guen voulait. Donc moi, au final, je suis pas d'accord avec cette idée-là qui dit que forcément il est vraiment supérieur. Après. C'est même pas un avantage parce que finalement Paul Le Guen aussi était un ancien du PSG. Mais après, la grande différence pour moi par rapport à l'appréciation, enfin pas l'appréciation, mais pourquoi les supporters sont plus pour Camboiré que pour Le Guen, c'est que Le Guen il était complètement amorphe. Donc ils avaient l'impression un peu qu'il s'en fout. Alors que ben forcément, Camboiré, quand il en a ras le cul, tu le vois tout de suite. Et ça pour un fan. Finalement, c'est très très important. Mais après, moi, sur le terrain, moi, je suis en train de me poser la question si au final, Camboré, c'est pas le parfait coach, mais pour les petits clubs, parce que PSG, pour être plus juste avec Camboré, si Le Guen a eu 2 ou 3 ans au PSG, je pense qu'on peut au moins lui laisser un peu plus de temps aussi pour voir un peu ce qu'il va donner. Mais voilà, moi, je trouve juste que le raccourci Paul Le Guen, Kaka et Camboiré, c'est un génie, je suis pas d'accord avec ça, c'est tout.
Ouais, bah après, c'est sûr que Camboiré, sur le terrain, fait pas énormément n'a pas forcément fait évoluer l'équipe. Mais comme tu l'as dit, il a un certain charisme, il a ce côté flambeur qui fait que dès que ça le fait chier, bah il le dit, voilà. Et puis bon, je pense quand même que Le Guen avait fait son temps et que il s'en était bien pris plein la gueule et que il était temps pour lui de partir. D'ailleurs, on voit bien qu'avec le Cameroun, ça a l'air de bien se passer, donc bon.
Quand il arrive avec le Cameroun, il venait de perdre au Togo 1-0 et ils font match 0-0 à domicile contre le Maroc. Ensuite, je crois que c'est net comme bilan.
Ouais.
Donc voilà. C'est 4 matchs, 4 victoires. Hein. C'est pas.
Bah ouais. C'est clair que bah il a au moins le mérite de ramener.
Surtout qu'en plus on parle de si on parle de ses compétences tactiques, enfin pas tactiques mais plutôt de gestion du groupe, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'au PSG on lui reprochait ça. Dès qu'il arrive, il enlève le brassard de capitaine à Rigobert Song parce qu'il estime que Rigobert Song n'a pas besoin du brassard de capitaine pour être le patron. Il le file à Samuel Eto'o qui du coup se sent pas plus motivé parce que de toute façon Eto'o est toujours ultra motivé quand je suis avec le Cameroun. Mais il a trouvé le moyen d'être encore meilleur sur le terrain, encore plus responsable, d'être encore un peu plus le patron. Et au final, ça, on peut pas dire que c'est pas bien vu de sa part. En plus, il rappelle un banni qui était Achille Mana. Et là, c'est pareil, on peut pas dire qu'Achille Mana n'a pas eu d'importance sur les dates. Il a fait 4 matchs assez monstrueux. Donc, moi, c'est juste par rapport à ça, ça m'énerve toujours, quoi. Moi, quand j'entends que. Quand je vois les raisonnements des gens qui sont faits juste du copier-coller RMC, et encore plus quand c'est Daniel Riolo, parce qu'il a décidé de pas aimer Paul Le Guen, quoi.
Oui, de toute façon, oui. Le Guen n'avait pas forcément tous les défauts que voulaient lui donner tous ceux qui l'ont critiqué pendant ces 3 années. Enfin, en tout cas, les 2 dernières années, parce que la première année, il est quand même arrivé limite comme le sauveur du PSG après la Combe. Mais bon, maintenant, pour revenir à Comboiré, je pense voilà qu'il faut lui laisser le temps, faut le laisser prendre des joueurs qu'il a envie de prendre, et puis on verra. La place du PSG pour l'instant, bah ça va se jouer comme la saison dernière, ils vont arriver à peu près à la même place que la saison dernière, et puis là on va voir comment ils vont faire pour gérer le fait que Makelele va s'en aller. Et Julie, je pense aussi, les jeunes, il y a pas mal de joueurs qui vont vouloir partir. C'est Seignon, pourquoi pas Sako. Et puis là, on verra la vraie équipe, l'équipe de Comboiré, parce que c'est lui qui va construire l'équipe du PSG. Et on verra si là, il a vraiment les qualités pour être le véritable entraîneur du PSG.
Surtout que c'est Seignon, vu son profil et. Et puis on sait qu'il y a forcément vraiment beaucoup de thunes, hein. Parce que je sais pas si c'est juste une rumeur ou pas, mais moi j'avais cru comprendre qu'il y avait eu 15 ou 10 ou 16 millions, un truc comme ça, déposé par Everton plus ce mercato, quoi. Bon, ça me paraît peut-être un peu gros, parce qu'à ce prix-là, tu n'hésites pas à vendre ces seniors, mais voilà. Et puis bon, moi là où je te rejoins par rapport à ce que tu dis sur Paul Le Guen, c'est qu'évidemment il n'avait pas tous les défauts, et puis. Le mec, il gagne la Coupe de la Ligue l'an passé, il fait finale la même année, donc il avait failli faire un doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France, et au final, ça, on n'en parle jamais dans son bilan.
C'est un peu comme Perrin à Lyon, quoi. Le mec, il fait le doublé, et puis il se fait jeter comme un malpropre pour voir débarquer Puel, et on voit bien que, voilà, on voit bien que finalement, Puel, c'est pas si énorme que ça.
Voilà, donc je pense qu'on a vraiment fini sur le PSG. Donc je vais laisser Fab reprendre la suite.
Ben, côté Ligue 1, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette 14e journée. Je sais pas si vous avez d'autres idées sur quoi réagir, d'autres envies. Ou alors, on passe tout de suite à la partie un petit peu plus étrangère de cette spéciale Ligue 1. Ou la Ligue des Champions, avec les 3 clubs français. On va d'abord commencer dans l'ordre. On va faire la Ligue des Champions, donc avant le match qui sera surtout décisif pour l'OM et un petit peu plus anecdotique pour Bordeaux et Lyon. D'ailleurs, question pour vous, est-ce que vous pensez que Bordeaux et Lyon devraient aligner une équipe à prime, on va dire, pour jouer ce match, histoire de garder des forces pour les journées de Ligue 1 qui arrivent avant la trêve?
Non, et pour deux raisons. La première, si on sait soit meilleur, il faut gagner ces matchs-là, il faut finir premier du groupe. Et en plus, surtout pour Bordeaux, ils ont quand même un sacré test, parce que là, la Juve a récupéré ses blessés, donc pour moi, c'est quand même l'occasion de rêver, de vraiment se tester, parce que il y a eu une petite enflammade sur les 2 dernières journées, enfin les résultats des clubs français lors des 2 dernières journées de Ligue des Champions, mais moi en fait je me désolidarise un petit peu de cet engouement, c'est juste parce que j'aimerais savoir si c'est exactement une forme, ou juste en fait le fait qu'ils aient joué 2 fois les mêmes adversaires, parce que ça peut être ça. Au final, Lyon et Bordeaux, Lyon assure tout le temps Ligue des Champions en phase de poule, grosso modo. Bordeaux, là, ils ont quand même fait un superbe truc, même si on a bien vu que le Bayern n'est pas terrible cette année. Mais par contre, Marseille, c'est toujours un peu le club français qui est un peu moins bon. Là, ils jouent Zurich, donc j'ai envie de dire, encore heureux qu'ils prennent 6 points. Donc, moi, je pense que non, ils doivent vraiment, surtout Bordeaux d'ailleurs, hein, ils doivent faire ça. Et puis, deuxièmement, c'est pareil, s'ils se plaignent tout le temps d'avoir des manques de moyens, bah, il faut gagner les matchs en Ligue des Champions. Ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. C'est quasiment 1 million d'euros.
Mais juste pour te répondre, est-ce que à vouloir gagner un match alors qu'on est déjà qualifié et perdre un joueur peut-être important sur blessure ou alors fatiguer les cadres quand on sait que en championnat on est sur une pente descendante, est-ce que c'est vraiment vraiment obligatoire?
Mais Lyon, ça fait pas alors l'an passé oui, mais celle d'avant je suis plus sûr à 100%. Mais ça fait pas 2 ans qu'ils finissent deuxième du groupe et qu'ils se font donc taper directement en 8e.
Mais qu'ils finissent premier ou deuxième, ils ont
non c'est pas
75%
pareil.
De chance de
se faire taper. C'est pareil ça justement. Mais non, mais... c'est pas vrai. N'oublie pas Villarreal qui chope le Panathinaikos. Ne dis pas que c'est pas pareil. Tu vois, il y a toujours des clubs comme ça qui sont un peu plus faibles.
Oui, mais malgré tout, Lyon sera quand même toujours dans les plus faibles des 16.
Non, pas dans les plus faibles. Ben non, je suis pas d'accord. À part si t'enlèves les super grosses écuries européennes, ils sont pas en dessous.
Ça dépend des matchs.
Ah oui, si tu tires Chelsea, ben t'es dans la merde. Mais je sais pas, moi je suis pas d'accord, moi justement. Faut pas non plus être trop dur avec eux. Ils sont pas tout le temps mauvais.
Je dis Lyon, ça peut être Marseille et Bordeaux, hein, c'est les clubs français en général. Hein.
Non, mais Marseille, c'est à part.
Et encore, Marseille, c'est encore un cran dessous.
Mais c'est même pas ça, c'est qu'au-delà de ça, Marseille n'a même pas ce choix. Parce que Marseille doit gagner. C'est complètement différent. Moi, je te donne juste un petit peu les groupes. Tu as bon le groupe de la Fiorentina et de Lyon, de Racing Liverpool. Tu as le Barça, Inter, Rubin Kazan, Dynamo de Kiev. Quoi qu'on en dise, vaut mieux tirer le Barça. Parce que le Barça en ce moment, c'est surtout un nombre incalculable de blessés. Ensuite, tu es en train de me parler de premier ou deuxième. Le groupe de Séville vaut mieux jouer Stuttgart, Glasgow ou Urtizeni que Séville. Et je peux te le garantir. De toute façon, on en parlera plus tard parce que moi, Séville, je les ai vus ce week-end. J'étais au stade, je les ai vus. Ils sont monstrueux. Ils sont franchement monstrueux. Là, c'est pareil. Arsenal, dans le groupe d'Arsenal, vaut mieux tirer le Standard ou Alkmaar. Ensuite, tu vois, c'est un petit peu pareil pour tous les autres clubs, au final. Donc, je suis pas d'accord, moi. Tu me dis Manchester, Besiktas, CSKA, Wolfsburg. Ne dis pas que tu vois pas un club qui surnage au milieu. Porto, Chelsea, dans le groupe de Porto et Chelsea, même si, bon, Porto, on dit tout le temps que les clubs français ont leur chance, on a vu que Porto, ils sont un cran au-dessus. Mais mine de rien, si Porto est un cran au-dessus, Chelsea est un cran au-dessus de Porto. Donc, je suis pas d'accord. Après, l'an passé, tu vois, c'était un peu... ils ont un petit pas brouillé les pistes, mais presque. Et donc, du coup, parce qu'on avait vu, par exemple, l'Inter deuxième du groupe, Chelsea deuxième du groupe. Donc, tu vois, il y avait eu des petits tirages. Mais cette année, c'est bien parti pour que les meilleurs soient premiers. Donc, non, c'est pas vrai, parce que quand tu finis premier, tu as quand même beaucoup plus de chances d'aller en quart de finale. Et aussi, tu as aussi cet avantage-là de jouer le match retour à domicile. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est quand même nettement mieux.
Donc, oui, mais quand on est un club français,
non.
Sportivement, c'est pas...
Et puis, n'oublie pas un truc, là, on dit qu'ils sont un peu... ils sont pas décrochés en championnat, parce que les trois se tiennent en très peu de points. Les trois principaux,
ils sont sur une mauvaise passe.
Oui, mais parce que bon,
l'accumulation des matchs, tout ça. Tu dis qu'il perd obligatoirement.
Oui, mais Auxerre ne va pas rester comme ça. Donc Auxerre, elle va tomber. Valenciennes va descendre aussi. Va baisser le rythme. Ils sont dans une. Pas, ils, c'est peut-être réducteur de dire ça pour eux, mais ils sont dans leur forme de leur vie. Continuer à ce rythme-là. Après, ça va jouer entre Bordeaux, Marseille et Lyon. Pas forcément dans cet ordre-là, mais bon. Et donc, du coup, là, tant qu'il y a la Ligue des Champions, tu te poses pas de questions, tu vas sur la Ligue des Champions, et ensuite, tu as 4 mois sans Ligue des Champions. Et là, tu vas enchaîner et c'est toujours là que se fait l'écart, de toute façon. Donc, non, moi, je suis pas spécialement d'accord à l'idée de dire qu'il faut vendanger les matchs. Après, il y a aussi un autre élément, c'est que Lyon, ils peuvent éliminer dans match nul, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont peut-être jouer le match. Donc voilà, mais bon. Sur le reste, moi je suis pas d'accord de dire qu'il faut lâcher des points, et puis même pas. Il y a aussi le coefficient plutôt européen. Donc non, les clubs français sont pas suffisamment forts pour pouvoir prendre de haut la Ligue des Champions comme ils le font avec, enfin, pas la Ligue des Champions, mais plutôt la première ou deuxième place de leur groupe, comme ils le font avec leur.
Et d'accord,
puis surtout,
d'accord,
comme je dis, Bordeaux-Juve, c'est quand même une vraie occasion de tester Bordeaux.
Peut-être, mais quand. Oui, et encore, un Bordeaux sans Gourcuff, ça n'a pas de mérite d'être testé.
Bah, pourtant,
parce que tu sais clairement pourtant, que
quand le Bordeaux est allé faire match nul à Turin sans Chiellini, Diego, Del Piero, Sissoko, super résultat parce que on parlait pas des absences. Non, je suis pas d'accord. En plus, tu dis ça et je suis pas d'accord justement parce que c'est justement pour moi l'occasion de rêver pour Laurent Blanc d'essayer de voir ce que peut faire Bordeaux parce que c'est pas juste sans Gourcuff. Contre Valenciennes, il jouait sans Alou Diarra, sans.
Là, il y aura pas Chamakh. Si j'ai bien suivi.
Ah ça je peux pas te dire. Je sais pas, j'ai pas encore vu un peu qui est là, qui est pas là.
Mais il me semble que Chamakh était du moins incertain.
Moi je te dis franchement, il faut y aller à fond parce que là c'est un vrai bon test parce que la Juve en plus elle est en forme en ce moment. Donc non, pour moi faut pas la galvauder, mais faut pas la prendre de haut cette Ligue des Champions.
Au risque de perdre des points en championnat trois jours après.
Mais pourquoi ça c'est typiquement français de dire au risque de perdre des points? Pourquoi les clubs anglais, tout ça, ils gagnent quoi qu'il arrive. Ils jouent tous les trois jours.
Parce que le niveau n'est pas le même, Abid. Le niveau n'est pas le même. Il faut pas non plus.
Niveau de quoi? Là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis le niveau n'est pas le même. Ah bon? Pourquoi il n'est pas le même? Parce que quand tu penses honnêtement que sur trois jours, Lyon ne peut pas taper West Bromwich et Stoke City. Ben si.
C'est juste qu'un match comme Bordeaux, si Bordeaux le joue à fond contre la Juve, forcément ça va laisser des traces. Parce que la Juve, c'est quand même une équipe puissante. À la base, le club anglais en Ligue des Champions, il est plus puissant que son adversaire quasiment.
Et donc en gros, si ce que tu me dis, c'est que plutôt que de tester son équipe contre une vraie belle équipe, autant se faire éliminer direct en huitième de finale et avoir une grosse surprise. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les clubs français, bon, à part Marseille, parce qu'ils ont rencontré des gros clubs, ils se sont fait taper, mais les autres, ils n'ont pas rencontré de gros clubs.
Mais finalement, les groupes sont simples.
Soit dans le pire moment de la saison, comme Bordeaux avec la Juve. Enfin, à peu près simple. La Juve, ils la prennent quand même au meilleur moment. Hein.
Donc, moi, oui, je te dis. La Juve, ils la prennent au meilleur moment.
Si Laurent Blanc, je t'ai dit, Laurent Blanc, il joue pas à la Ligue des Champions pour finir 12e. Hein. Il joue pas à la Ligue des Champions pour perdre en 8e. Hein. Il joue à la Ligue des Champions pour aller plus loin. En plus, on le connaît, Laurent Blanc. C'est un petit rusé. Il nous l'a fait l'an passé avec ses. Non, on joue pas le titre, Et puis à la fin, Donc voilà, pour moi non, c'est trop simple.
On verra dans les semaines qui suivent.
Ah oui, mais le problème c'est que c'est pas parce que tu. En plus là, il y a eu la trêve. Bon, moi honnêtement, je comprends pas trop cette façon de voir les choses.
Perso, globalement, je suis d'accord avec toi, Habib. C'est pas le moment de prendre de haut la Ligue des Champions et c'est pas le moment de dire on va peut-être mettre l'équipe B et on verra ce qui se passe. Là, c'est pile le bon moment, notamment pour Lyon, de creuser l'écart sur la Fiorentina et Liverpool et de s'assurer la première place. On l'a vu la saison dernière, ils s'en sont mordus les doigts. Ils ont pris de haut le match contre le Bayern, notamment avec Juninho et Chris. Et on a vu le résultat, ils ont fini deuxième et ils ont pris le Barça en huitième.
Donc le Bayern prenait le Sporting.
Voilà, et ils leur ont mis une raclée sur les deux matchs facilement. Donc c'est pile le bon moment de dire maintenant tu mets la grosse équipe, tu fais un bon résultat, et puis derrière t'es tranquille. Tu pourras mettre l'équipe B contre Debrecen, il n'y aura pas de problème, de toute façon tu seras presque sûr d'être premier, même tu seras sûr d'être premier. Pour Bordeaux, c'est pareil. Bordeaux, ils sont qualifiés, mais s'ils ont l'occasion d'être premiers devant la Juve, et qu'ils le fassent.
Maintenant, en plus, ça va les motiver. Être premier devant la Juve, tu te rends compte ce que c'est?
Bah ouais, non, mais c'est clair que là, tu
bien, quand t'es premier devant la Juve.
Et puis après, au niveau européen, au niveau des autres équipes en face, tu prends un certain statut. C'est-à-dire que maintenant, t'es pas l'équipe qui s'est qualifiée devant le Bayern qui arrive plus à avancer, qui arrive plus à avancer en Ligue des Champions, et devant l'Hapoël Tel Aviv, je crois que c'est le Maccabi Haïfa. Ouais, Maccabi Haïfa. Donc voilà, maintenant tu finis devant la Juve, tu prends un certain statut aux yeux des autres. C'est-à-dire que t'es plus respecté. Bon, donc c'est pile le bon moment. Par contre, il y a sur un truc où je te rejoins pas, c'est au niveau de le fait de jouer les matchs tous les 3 jours. On voit en Angleterre quand même que Liverpool et Manchester ont quand même pas mal de problèmes en championnat après les matchs qui suivent la Ligue des Champions. On le voit aussi en Italie où il y a quand même pas mal de problèmes après les matchs de Ligue des Champions. Donc bon, voilà, ça c'est un facteur qui rentre en compte. Mais bon, c'est pas non plus un problème de perdre des points à ce stade du championnat, sachant que Lyon et Bordeaux sont déjà dans le trio de tête. Lyon est à un point ou à égalité de Bordeaux et Bordeaux est à un point de Auxerre. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est pas comme s'ils étaient vraiment largués en championnat et que là, c'était à tout prix remonter.
Donc, c'est pour ça que je te disais, voilà, ils sont pas largués, ils sont côte à côte. Au final, ils tiennent très peu de points, donc c'est pareil. Mais après, là où je suis pas d'accord, c'est que je comprends pas pourquoi, quand ça arrange, on dit que oui, il faut pas jouer comme ça parce que les clubs anglais ne marchent pas. Mais ensuite, quand j'explique que les clubs anglais jouaient tous les 3 jours, on me dit oui, mais c'est pas pareil. Donc en gros, on utilise l'excuse des gros clubs et des clubs anglais quand ça arrange, et ensuite non. Donc je sais pas, soit on les prend comme modèle, soit on les prend pas comme modèle, mais on les prend pas comme modèle que quand ça va mal. Parce qu'au final, le plus important, c'est quand même de les copier quand ils sont bons.
Oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Moi, personnellement, je pense que c'est tout à fait normal de perdre des points après un gros match de Ligue des Champions. Donc, qu'on prenne modèle ou pas, oui, c'est pas le problème. C'est sûr que après, ça, c'est des discours pour justifier les défaites et pour dire que finalement, les clubs anglais y arrivent, mais c'est pas pareil, c'est différent parce qu'ils sont beaucoup plus forts. Non, c'est sûr qu'ils sont pareils. Donc justement, les clubs anglais le arrivent parfois à gagner. Si toi t'arrives pas à gagner, bah voilà, c'est dommage. Mais c'est aussi normal que tu perdes des points en championnat. Moi je pars du principe que forcément, si t'as joué un match en milieu de semaine, tu perdras des points. Et si Chelsea arrive à le faire, bah c'est que finalement ils ont un mental et un physique meilleur que le tien. Voilà, c'est tout. C'est
pas. Ouais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je suis pas d'accord. C'est que depuis cette année et l'an passé que Lyon surtout gagnait des matchs en Ligue des Champions et perdait en championnat. Mais avant, ils enchaînaient les deux. Alors pourquoi on explique que les clubs français progressent, mais ensuite qu'ils se plantent? Je sais pas. Pour moi, ça n'a aucun sens de dire que si un club joue un match aujourd'hui, il va se planter forcément.
Non, 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 mais il va pas se planter forcément. Il va pas se planter forcément. Il peut très bien gagner son match. Normalement, il doit le gagner. Il doit le gagner.
Et après, il y a autre chose. C'est un peu. Je comprends pas la façon de voir le turnover en France. En France, c'est pas tu fais tourner un ou deux joueurs. C'est soit tu mets tout le monde, soit tu en fais sortir 8. Ça, c'est la grande différence entre la France et l'Europe. En France, ils font une fois. Ce week-end, j'ai préféré mettre Poulsen plutôt que Sissoko. Donc ils ont laissé juste Sissoko un peu frais. Del Piero qui est en phase de retour, pareil. Mais au final, ils font jouer, allez, toujours 8-9 des titulaires. Si Bordeaux faisait à chaque fois 8-9 joueurs titulaires, ensuite il y en a toujours 2 ou 3 qui alternent, et ben déjà, pas forcément les mêmes justement, et ben l'équipe serait beaucoup mieux. Et c'est ça où pour moi, l'histoire du turnover, je suis pas d'accord. Parce que c'est juste qu'en France, il est vu de façon mais pathétique. On l'a vu, Laurent Blanc, c'est quand il fait tourner, mais vraiment il fait tourner, quoi. Limite, il demande à changer le maillot.
Oui, en France, on a une sorte de turnover radical en disant soit on met l'équipe A, soit on met l'équipe B. Voilà. Donc, il n'y a pas de. De toute façon, le turnover, normalement, il doit se faire sur le long terme. C'est-à-dire qu'il doit se faire tout au long de la saison. c'est pas une question de dire comme on a un match on avait un match important il y a 3 jours qu'on doit mettre l'équipe B 3 jours plus tard. Non, c'est juste que normalement tu dois faire jouer tout l'effectif, et justement c'est comme ça que tu arrives à gagner des compétitions, c'est que tous les joueurs du groupe sont impliqués et tous les joueurs du groupe sont capables d'être titulaires d'un match à l'autre. Maintenant oui, le problème c'est que on se base beaucoup trop sur une équipe de titulaires, et on les fait souffler quand il faut, mais on en fait trop souffler à la fois, en fait. On a vraiment un cadre en disant ça c'est l'équipe A, ça c'est l'équipe B, et les autres joueront quand il faudra. Maintenant c'est sûr que quand on a vu la saison dernière avec Gourcuff, il a joué 60 matchs et c'était beaucoup trop. Cette saison, on voit que là, il paye le contre-coup de la saison dernière, parce qu'il a joué énormément et on s'est beaucoup trop basé sur lui. Après, là, c'est aussi une question de profondeur de banc. En France, on a tendance à dire, on a un 11 titulaire très fort, on n'a pas forcément besoin d'avoir un banc très très performant. Et c'est là le problème. Dans les pays étrangers, l'équipe, c'est pas 11 joueurs, c'est 15.
22, hein. Non, c'est 22, c'est même pas 15. Hein,
ouais, voilà, c'est beaucoup plus qu'en France, en tout cas.
14, tu vois, c'est ceux qui vont jouer le match. Mais voilà, là-dessus. Et donc, je trouve que c'est dommage de laisser filer, surtout que c'est des beaux matchs, quoi. Quoi qu'on en dise, quand tu vas jouer la Fiorentina là-bas et que tu la tapes, on peut pas. Moi, je veux pas croire que les joueurs n'ont pas de. Enfin, qu'il n'y ait pas de retombées positives au niveau du moral. Et c'est pareil pour la Juve. Si Bordeaux bat la Juve à domicile en plus, donc là ils ont même pas l'excuse du déplacement, comme quoi c'était un long déplacement, ils sont à la maison, quoi. Ils ont l'occasion de. Donc du coup ils ont un problème qui va les tarder, et puis s'il y a un problème, ils sont obligés de rester sur Turin plus longtemps, s'il y a un problème technique, tout ça. Non, là c'est à la maison. Ils jouent le match et puis chacun rentre chez lui, donc tu vois. Voilà, je sais pas. Pour moi, non, il n'y a pas de raison valable, si tu veux, pour pas jouer ces matchs à fond. Et puis, le dernier match, c'est l'OM qui va devoir vraiment jouer sa vie. Et je sais pas quoi penser du Milan, parce que ce week-end, ils font 4-3 contre un petit club, je crois que c'était Cagliari ou Bologna. Mais voilà, donc du coup, moi, je me pose la question de voir qu'est-ce qui est le plus significatif. Est-ce que c'est les 4 buts qu'ils mettent ou les 3 buts qu'ils encaissent? Honnêtement, j'arrive toujours pas à me fixer, mais c'est franchement c'est quelque chose qui s'était calé, Ali, c'est ça. Donc, j'espère juste que les Marseillais vont jouer avec quand même un peu plus de mobilité que ce qu'on a pu voir, parce que c'était pas terrible du tout. Et, parce que bon, moi, il y a. Surtout que moi, le Milan en ce moment, ils sont pas super mauvais. Ils remontent petit à petit au classement, donc il faut vraiment les jouer à fond. Surtout que dans cette Ligue des Champions là, bon, Marseille joue souvent de malchance, mais là où ils sont franchement malchanceux quand même. Quelles étaient les probabilités pour que Marseille se prenne le Real de Cristiano Ronaldo et que le Milan joue sans Cristiano Ronaldo, quoi. Parce que sinon, ça donne pas du tout le même, le même classement à l'heure actuelle. Ça a finalement pas fait nos affaires, surtout qu'en plus, apparemment, moi j'ai pas encore fait les calculs, mais apparemment il faut gagner les 2 matchs, quoi, pour se qualifier. À Milan demain, il y a peut-être possibilité, mais alors là vraiment toute petite, il va falloir être à fond tout le temps. Mais autant Cristiano Ronaldo reprend la compète dès le week-end prochain, donc à moins d'une rechute, je ne vois pas Marseille battre le Real à Marseille, sauf si Cristiano Ronaldo est là, quoi. Donc là, de toute façon, au moins eux, ils ont l'avantage sur les deux autres clubs français. Ben, ils n'ont pas de questions à se poser, ils doivent attaquer du début jusqu'à la fin du match. Donc vas-y, Christophe.
Oui, non, mais je partage un peu ton avis, mais je pense que la clé du match, ça va être surtout, tu l'as dit, Marseille devra attaquer. La clé du match, tu disais, je ne sais pas quoi retenir entre les 4 buts marqués et les 3 buts encaissés par Milan. Moi, ce que je retiens, c'est surtout les buts marqués, parce que c'est une constante au fil des semaines. Ils sont d'une efficacité roublardise devant le but, qui est assez symptomatique. On l'a vu notamment face à Marseille.
Hein. Oui, mais enfin, si on part du principe de rappel... Vas-y. J'ai dit, si on s'en sort forcément... Si on commence forcément, tu vois, si on part forcément du postulat que l'arbitre va se planter, bah oui, on va pas s'en sortir. Bah, parce qu'on sait très bien qu'à Marseille, bah, il y avait au moins hors-jeu sur le premier but, quoi. Donc,
non, mais je parle pas de l'arbitre.
Bah après, tu dis ça, mais tu dis que le plus important, c'est les 4 buts marqués. Oui et non,
c'est parce que je retiens, non, c'est pas
ce que... Mais Cagliari, c'est pas Marseille, finalement, défensivement.
Non, effectivement, j'étais d'accord tout à l'heure quand tu disais que l'Udinese c'était pas non plus Bordeaux. Je parlais du match de Bordeaux parce que tout à l'heure je voulais donner mon avis, mais t'étais plutôt de mon avis justement, donc j'ai pas voulu paraphraser. Non, mais par rapport à demain, ce qu'on sait déjà, c'est que les peu d'occasions qu'ils vont se forger, il faudra qu'ils marquent. Ça va être la différence, surtout par rapport au match aller. Tu disais, après le match contre le Real Madrid, Ronaldo va revenir. Oui, tout ce qu'on peut espérer, en tout cas tout ce que les Marseillais peuvent espérer, c'est que le Real Madrid batte Zurich. Et que à ce moment-là, il serait pas spécialement obligé de l'emporter mathématiquement parlant, on s'entend bien, face au Marseille. Et donc là, ça pourrait effectivement jouer en faveur de l'Olympique de Marseille. À ce moment-là, le Real Madrid pourrait faire un léger turnover, mais pas un turnover à la Laurent Blanc. On est bien d'accord. Mais
oui, mais donc, le problème. Pourquoi je te dis que je suis pas d'accord avec ça, c'est que moi, je pars du postulat que et Madrid et le Milan vont taper Zurich. C'est pas parce que le Real Madrid va les taper,
je pense
que c'est évident. Ils joueront à domicile, donc eux,
ils vont. Non, mais
par contre, je
partage ton avis, mais le truc, c'est que si le Real Madrid bat Zurich, ce qui est très, très probable, mathématiquement, ils seront pas obligés de battre le Marseille. Donc ça peut jouer aussi, quelque part. En tout cas, je l'espère pour les Marseillais. Et quand on essaie de calculer, les probabilités de qualification, il faut rentrer ce genre de paramètres.
Oui, mais c'est pour ça que mais le problème, c'est ce que tu dis, toi, ça revient exactement à ce que je t'ai dit. Marseille doit gagner au final les deux matchs.
Ah oui, ça, je pense
que
c'est...
Parce que tout le raisonnement que tu dis là ne tient que si Marseille... Et encore, c'est même pas vrai parce que tout simplement, c'est faux, c'est même faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Si jamais on va partir du postulat que Marseille gagne demain, donc, et que le Real gagne, on est d'accord. Donc Marseille se retrouve avec 9 points, le Real 10.
Ils pourront faire match et être qualifiés avec un nul à Marseille. Bien sûr.
Non.
Ah si, avec un point, s'ils gagnent demain avec un point à Marseille, ils sont premiers. Ah ça, tu fais
c'est le Real qui est deuxième, qui est premier, hein, s'ils font match contre le Real et qu'ils gagnent.
Oui, non, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, le Real.
Moi, je te dis,
c'est exactement ce que je te dis.
Avec match nul. Ça, tu me dis avec match nul. Mais pour Marseille, c'est pas une bonne. S'ils font match nul Marseille, bah, ils sont éliminés quasiment. S'ils gagnent 4 points, Marseille est quasiment éliminé. Parce que, la différence de.
Non, mais ce que je peux te dire par là,
c'est que
tu seras pas obligé de gagner à Marseille. C'est exactement ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure. Il pourrait prendre un point et ça pourrait jouer dans la motivation.
Oui, enfin, si toi, ce que tu me dis, c'est que pour se qualifier, il faut des comptes d'apothicaire.
Ah non, c'est pas un compte d'apothicaire, hein. Non, c'est pas un compte d'apothicaire.
Si, parce qu'après, il va falloir qu'à...
Le Real tape Zurich, ils ont besoin d'un point à Marseille, c'est pas un compte d'apothicaire. Le Real tape Zurich, ils ont besoin d'un point à Marseille.
On s'en fout du Real, c'est ça que tu comprends pas. On s'en fout.
On s'en fout pas vraiment, puisque Marseille doit les battre.
Oui, mais si Marseille, par exemple, gagne 2-1. Ah non, mais 2-1, c'est le meilleur résultat, je crois, pour Marseille, 1-0. Parce que 2-1 avec la 6-1 qu'on a mis à Zurich, quoi, ça veut rien dire, parce que la dernière journée, le Milan joue Zurich, ils peuvent leur mettre une valise, parce qu'ils seront ultra motivés. Mais là où je te dis que c'est un compte d'apothicaire, c'est que d'accord, le Real passe, donc ils auraient 11 points. Hein? Mais après, ça reviendrait à voir quel est le résultat qu'a fait.
Le résultat de mercredi.
Quel est le résultat de. Voilà, le résultat de mercredi.
Bien sûr, évidemment.
Parce que là, on part du postulat que Marseille et le Real prennent 4 points, et que Milan prend que 3. Tu vois déjà que ça, c'est déjà hautement improbable.
Non, mais ce que je suis, je partage ton avis, je pense que Marseille devra gagner ces deux derniers matchs, de toute façon.
Surtout que le dire le Real, enfin les remplaçants du Real, c'est vrai et faux à la fois, parce que il y a une grosse différence entre Cristiano Ronaldo sur le banc et Cristiano Ronaldo blessé. Non, même pas titulaire, blessé et sur le banc. Parce que Ronaldo, tu le fais rentrer 20 minutes, il te fout le bordel. Et s'il fait tourner, Ronaldo sera sur le banc.
Bien sûr.
Et le Real Madrid ne joue pas pour faire des matchs nuls. Et encore moins à Marseille contre Marseille. Parce que pour eux, Marseille, c'est rien. Le problème, c'est que Marseille, s'ils veulent se caler... Enfin, ils ont encore leur destin entre les mains, c'est déjà bien. Mais ils doivent accomplir, bon, pas les 12 travaux, mais juste deux. Deux gros, grosses œuvres.
Deux gros travaux. Ouais. De toute façon, on sera fixé après le match de mercredi, donc... On sera fixé sur ce que Marseille doit faire mercredi.
Ouais, mais enfin, tu me dis ça, moi je pense que d'abord Marseille doit gagner mercredi.
C'est pas fait du tout, ça, déjà.
C'est vraiment pas fait du tout.
Mais bien sûr, évidemment, c'est pas fait du tout. C'est ce que je dis, et selon moi, je reviens à ce que je disais en premier, la clé du match, selon moi, ça va être... Il faudra pas, tu vas avoir 4 à 5, et je pense que ça va se passer comme ça, tu auras 3, 4 grosses occasions, ou même des demi-occasions, tu dois les mettre au fond, c'est tout. Ça va, je pense que se résumer à ça. Et j'espère que Marseille sera...
Ronaldo, comme tu le dis, sinon, on parle de Ronaldo... Surtout que non, mais on parle de Ronaldo depuis le début, mais Ronaldo, tu vois, il est sur la phase de retour, donc il a... un petit peu besoin d'emmagasiner du temps de jeu. C'est pas bon tout ça pour Marseille. C'est pour ça que je t'ai dit que cette blessure, finalement, ben, Diawara est la plus pénalisable.
Non, non, mais après, je partage ton opinion par rapport à ce match de Marseille à Milan. Hein, donc, on est plutôt du même avis.
On accueille de nouveau pour cette fin d'émission, Renaud et Loïc, deux petits nouveaux sur Génération Soccer. Donc bonjour, bonsoir les gars.
Bonsoir.
Salut les gars.
Alors pour nous aider un petit peu, vous allez nous dire qui est Loïc, qui est...
qui est Renaud.
Non, parce que si vous me dites salut, salut.
Oui, c'est sûr.
Ressortir.
Là c'est Loïc qui parle là.
Et là moi c'est Renaud. Bonsoir. Là.
D'accord. Donc Loïc c'est celui qui a une voix bizarre et l'autre c'est...
Donc voilà, est-ce que vous avez un avis sur Marseille, les gars, pour vous mettre dans le bain directement?
Ah, moi j'en ai, ouais.
Ouais, bah vas-y, je t'en prie.
Bah, Loïc, tu commences ou je commence? Vas-y. Bah, écoutez-moi, les gars, j'étais au match déjà, on va dire, j'étais au match vendredi, j'ai pas vu une super équipe de l'OM, certes, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen de créer l'exploit à Milan. Tout ça parce que je pense que c'est la dernière chance, il faut tout donner. Je pense qu'il y a des très bons joueurs à l'OM, il y a Abriel qui est vraiment bon, il y a Niang qui peut faire la différence, ça on le sait, il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose à Milan. Maintenant, le problème étant que un club italien en Ligue des Champions, on sait comment c'est tout pour la gagne, surtout quand il faut chercher un résultat. Donc, je suis confiant, mais sans être super confiant, quoi, on va dire.
Donc en fait, tu stresses comme tout le monde, quoi.
Ouais, voilà.
On est dans la merde, quoi, je veux dire. On est juste dans la merde.
Non, mais c'est clair, mais bon, je sais pas, je sens vraiment qu'il y avait un truc à faire déjà à l'aller, donc c'est pour ça.
Et, mais à l'aller, c'était pas le même Milan, on est quand même d'accord.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Moi, perso, j'y crois pas, hein. Enfin, c'est ma vision à moi. C'est toujours pareil, on est dans la merde, quoi. Parce que...
Ah, donc, de Marseille, en fait.
Ouais, c'est ça. Non, mais...
Dan, il a suivi le recrutement, comme on était plus vite, et on a pris deux autres, quoi. Maintenant, il faut faire une équipe. C'est bien, Dan.
Non, mais tout ça pour dire que le Milan n'est plus le même, hein, tout simplement. Bon, oui, c'est vrai que Marseille est passé pas loin de l'exploit. Enfin, si on peut parler d'exploit, parce que ils auraient dû le gagner, même ce match, hein, c'était même pas une éventualité. Maintenant, je pense que Milan est supérieur au début de saison, et je pense que maintenant, pour aller chercher la victoire, ça sera plus difficile quand même. Hein. Enfin, c'est mon avis.
Ah bah on n'est pas dans la merde, hein, voilà.
Après, ce qu'on peut souligner, c'est quand même que les Marseillais sont les plus sceptiques. Il faudrait qu'il y a, c'est le Belge qui est le plus optimiste, enfin peut-être.
Non mais tu sais, tu vois ce qui nous différencie des Parisiens, c'est que nous on est lucide. On va pas t'expliquer que c'est... Ouais, aussi.
Allez, pas juste un 15e, mais il pense au titre.
Ouais, voilà. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est que Milan, avec un point, ils font une super opération. Hein.
Oh, c'est clair.
Donc, eux n'ont même pas besoin de gagner, je vais dire. Parce qu'avec un point, ils vont à Zurich, ils les tapent et c'est bon. Hein.
Carrément. Bon, maintenant, on est définitivement blessé. On va être beau un mercredi soir à faire l'émission. Donc on va commencer par dire, ouais, le problème c'est que dans ce match-là, Nzabi marque toujours. Nzabi va marquer, ça.
Ah ben bah, Pipo il marque, ça c'est sûr. Ah,
c'est Pipo, c'est le mec, il faut pas lui laisser 2 mètres dans la surface, hein, on le sait. Et malheureusement à l'aller, c'est ce qu'ils ont fait quoi.
On m'a mis 8 mètres, il te l'a mis, donc c'est pas un problème.
Ah mais ça mètres, c'est...
Si je peux donner mon avis par rapport à Nzabi, je vais pas parler même de cette saison-ci, mais sur l'ensemble de sa carrière, et je vais même dire tout simplement sur son talent brut. C'est un des meilleurs attaquants au monde, tout simplement parce que pour moi, avoir la faculté de se faire oublier pendant presque 90 minutes, et les deux seules fois où tu le vois, c'est quand il marque, c'est peut-être la pire difficulté chez un attaquant, alors que beaucoup d'autres, on va pas citer de nom, mais beaucoup d'autres, tu les vois pendant 90 minutes, mais ils tapent à côté, quoi.
Brandao.
Ne parlez pas de lui, les gars, ne parlez pas de lui. Oh là là. Parce que Brandao, c'est le summum du mec, j'ai 25 occasions, j'en ai pas une, quoi. Alors c'est le...
Ouais, mais moi, je vais le défendre un peu, quand même. Parce que je veux dire, il faut quand même se créer.
Un courageux, allez, un courageux.
Un courageux.
Moi, je suis sûr qu'il faut en tirer sa queue de cheval.
Non, mais, bon, c'est vrai, il est moche et tout. Non, mais, au-delà de ça, je veux dire, il faut se les créer, les 25 occasions, je veux dire, quand même. Je veux dire, il a le mérite quand même d'être présent dans le jeu. Je crois qu'on peut pas lui reprocher. Je pense que Marseille, même en fin de saison dernière, il se basait sur lui en attaque, je veux dire. Hein, ça, même si c'est pas forcément le plus beau jeu que Marseille ait produit jusque-là ou quoi, mais je veux dire, il est quand même là, c'est un bon pivot. C'est quelqu'un qui arrive à se créer des occasions. C'est vrai qu'il croque, c'est quelqu'un qui croque. Mais bon, je veux dire, généralement, il en met quand même au moins une. C'est déjà pas mal, je veux dire.
Ouais. C'est pas assez. En Ligue des Champions, on a besoin d'un gros réalisme. Et pourtant, Dieu sait si j'aime bien Brandao. Mais franchement, c'est pas l'homme de la situation. Moi, ça me fait peur de me dire qu'on se repose sur un Brandao pour gagner en Ligue des Champions contre le Milan. Bon, après...
Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on...
Il y a que lui.
Qui a que lui? Voilà.
Non, mais si...
Tu mets pas Morientes. Tu mets pas Morientes. Non, t'as que lui dans ce rôle-là, tu as que lui.
Non, mais après, il est mal utilisé, Brandao. Il est très mal utilisé.
Si je peux donner mon avis par rapport à Brandao, moi, ce que je pense, c'est qu'on lui donne vraiment un très mauvais rôle quand on dit on ne compte que lui. On ne compte que sur lui, pardon. Faut quand même se rappeler que Guéretz, quand il l'a pris, c'était pas du tout pour être celui qui marque les goals et celui qui fait la différence. Il l'a pris vraiment pour, dans son effectif, avoir un point d'appui.
Avoir un point d'appui. Il voulait juste qu'il tape.
Non mais
sérieusement, la défense
aussi. Gareth voulait avoir un point d'appui devant parce qu'il manquait un petit poids, un poids devant. Après, on lui donne une étiquette, il doit être le sauveur de l'OM. C'est pas pour ça qu'il est venu à Marseille. Hein. En tout cas, Gareth, c'est pas pour ça qu'il l'avait engagé à Marseille.
Ouais, mais enfin, le problème c'est que quand Gareth a expliqué à Brandao qu'il devait appuyer sur les défenses, bah Brandao il a pas compris que c'était pas sur les chevilles. À partir de là, il perd quand même. Bon merde, j'ai fait une Laurent Blanc. À partir de là, bon, il perd, tu vois, de l'influx, il perd de la lucidité parce que Brandao, on peut pas lui reprocher son engagement, mais on peut lui reprocher un excès d'engagement parce qu'il perd beaucoup trop de courses inutiles. Ouais. Quand tu vas courir pendant 50 mètres pour aller presser Serra, ça va, hein, Serra, de toute façon, tu sais qu'il va rien faire avec la balle. Alors, perds pas ton temps sur lui.
Ouais, mais quand même, je veux dire, il pèse sur les défenses quand même. Tu peux pas lui reprocher ça quand même, je veux dire. Tu peux pas lui reprocher
très mal le maillot. Bah oui, mais juste qu'il le mouille mieux.
Non, il attire souvent avec lui un ou deux défenseurs, donc ça c'est déjà quelque chose qui est positif. Après, dans un club, parce que moi je suis belge, donc dans le championnat belge, j'ai déjà un très bon attaquant. Mais après, dans une équipe comme Marseille, ça suffit pas. Donc, mais maintenant, en plus, tu parlais d'engagement, Habib. Moi, le dernier match que je vois de lui, c'est contre le Paris Saint-Germain. Le tacle par l'arrière, les deux pieds décollés, pour moi, c'est rouge. Hein. Donc là aussi, il y a un surplus d'engagement.
Tu veux dire que Duhamel est un mauvais arbitre?
Oui.
Je pourrais le s'entendre, peut-être.
C'est un peu sa façon à lui de mouiller le maillot ce soir-là, mais bon, après. Ou de salir le maillot.
On dit rien à ça. On va laisser Fab dans supporter sa, son bide intersidéral. minute de silence. Bon, après, bon, on va croiser les doigts.
Il reste plus que ça.
Bon, je pense que si on a fini, on peut enchaîner sur la Liga, hein.
Eh ben, la Liga, je sais que ça te tient à cœur. T'es venu dans la spéciale Ligue 1 pour la Liga.
Ça fait deux ans que je suis là pour faire 5 minutes.
On n'oublie pas la Jupiler League avec Chris, juste avant.
Et le super gardien qui a fait une super connerie, j'ai vu ça. Je sais pas si vous avez vu. Quand un gardien, en France, il
la Jupiler League, c'est qu'il a vu Téléfoot.
Non, bah, étant de Metz et on a la chaîne belge, quoi, donc j'ai vu le Anderlecht Roulers, je crois, mais le gardien il s'est pris un but, quoi, mais gag.
Première question.
Je peux intervenir par rapport à ça, je connais très bien le sujet.
Excuse-moi juste, je vais le citer. J'ai regardé Anderlecht Roulers. Pourquoi? Première question.
Non mais si vous voulez, je posterai la vidéo. C'est vrai que c'est dans les genres but gag. C'est très
difficile. Essayez-tu d'impressionner? Deuxième question. Et franchement, Roulers contre Anderlecht, faut être motivé, quoi.
Non, mais en fait, je t'explique, c'est un genre de téléfoot, quoi.
Ouais, mais après, il n'y a pas de sous-football non plus à Bib. Hein.
Si. Oh, si, il y a du sous-football. Hein.
Ah non, il n'y a pas de sous-football. Hein.
Oh, tu vas voir, tu m'en parleras quand tu verras Defal Hassan et Jalili contre Alebga. Tu vas voir si c'est pas du sous-football.
Non, mais.
Elle te chatouille la chaussée. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de football. Oh, que si, mon ami.
Non, mais en plus, il n'a pas vu le match, et tu sais, l'émission s'appelle Studio 1 et c'est un sort.
Voilà.
Le téléphone.
Ouais, c'est Studio 1.
Donc, tu sais, il dit que c'est pas la question de football pétante sur téléfoot, quand même.
Tu sais que dans le championnat marocain, il y a 30 journées, quand tu vois que le meilleur buteur finit à 11 buts.
Et en Ligue 1, il y a pas longtemps que ça, il finissait à 12 buts.
Oui, mais à 12 buts, c'est une exception. Non, c'était 16 buts, c'était Paoletta une fois, ou je sais plus qui. 16 buts, mais ça, c'est une exception. 11 buts au Maroc, tu vois, c'est normal. C'est très normal. Et puis, les transferts qui se comptent en dizaines de milliers d'euros, c'est bien aussi. Alors, on ne me parle pas qu'il n'y a pas de sous-football. Donc, bon, ouais. Moi, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie Liga avec ton super jingle.
Général Soussoukat. Paris si livré spécial, ici 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 livré
spécial. Ça le fait, hein.
C'est des jingles qui puent, mais bon, comme Dani David, on n'a plus de rien.
Non, c'est pas mal, moi, je trouve. Ça va,
il est super. Arrête! Mais toi, t'es nouveau, c'est normal. Là, t'es dans la phase où, en fait, tout le monde est super, tu l'échouilles un petit peu partout.
Voilà.
Tu sais que d'ici 2-3 semaines, tu vas te sentir plus à l'aise et tu vas lui dire, bon, maintenant, t'arrêtes ton jingle de merde avec. Par contre, n'insultez pas la fille au cas où, parce qu'elle est avec nous. Donc, comme tu serais tenté de la traiter. Bref, donc on va commencer avec une rapide chronique bien moins longue que celle que je fais habituellement les samedis soirs sur la 11e journée de la Liga. Donc on va commencer par parler d'abord de la chance marseillaise. On tire l'Atlético Madrid l'an passé, ils sont magnifiques, on les tire cette année, ils sont pourris. Donc l'Atlético Madrid qui perd 2 buts à 1 à Riyasol, donc contre le Deportivo La Coruña, après avoir mené 1-0 au bout de 3 minutes. Mais l'Atlético Madrid est vraiment en train de galérer. Pour vous donner une idée, ils sont 18e. Les deux seules équipes en dessous, c'est Jerez et Malaga. Autant vous dire que c'est la folie. Ils ont vraiment de gros problèmes parce que leur fameux duo Agüero-Forlán n'est vraiment pas bon cette année. On va être gentil, on va dire qu'il y a 3 classes d'écart entre leur version 2009 et la version de 2009-2010.
Pourtant, c'est la même équipe, c'est ça qui est dingue quand même. Mmh. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de gros changements à l'Atlético. Moi, je ne comprends pas, en fait. Hein. Je ne comprends pas comment ils en arrivent là.
Il faut dire qu'ils avaient un guignol comme entraîneur qui s'appelait Averresino. Averresino, tu vois, c'est une sorte de Camboiré.
Ah oui, je vois.
Ah, je vois bien, mec.
Non, mais même pas pour pas le côté sanguin, mais plus bon. Daniel Riolo a décidé de faire la propagande Paul Le Guen. Moi, je faisais le contre Cambouaré, donc voilà quoi. C'est l'ancien joueur de Atlético Madrid, donc forcément ils disent bon, si on le prend, ils vont être contents. Bah, ils sont très contents, ça se voit. Il a été viré il y a 3 journées. Il commence tout de suite en prenant un autre génie du ballon rond, Kike Flores, que les fans de Benfica détestent. Et puis dès son entrée, dès son intronisation, eh ben il a la grippe A, donc là ça va de mieux en mieux à l'Atlético Madrid. Et puis franchement, quand tu les vois jouer, tu te poses la question si c'est pas eux qui l'ont transmis la grippe A en fait, parce que ils ont une défense, mais boah.
Un coup de question sur les muscles.
Vas-y.
Moi j'ai une question à vous poser.
Vas-y.
Vu de la saison dernière de l'Atlético et tout, on savait qu'ils étaient pas trop mal quand même. Et j'ai une question à vous poser, donc c'est est-ce qu'ils ont pas fait une erreur en ayant gardé Forlan et Agüero, parce que ils pouvaient s'en tirer facile avec les deux, je crois un truc du genre 70 millions avec les deux, hein, parce que tellement ils étaient trop forts. Et je pense que cette saison-là, les vendre les deux-là à la fin de la saison, je pense que ils vont pas tirer le même bénéfice, quoi. Alors j'ai une question, est-ce que ils vont réussir à les vendre, quoi, du coup, et pour un prix où ils auraient pu le vendre l'année dernière, quoi.
Ça, c'est oui, enfin, je pense.
Non. C'est pas parce que le problème, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut voir la situation. L'Atlético Madrid l'an passé avait un quatuor somme toute assez formidable. Maxi Rodriguez, Simao, Agüero, Forlan. Là où ça pêchait, c'était derrière. Qui est le plus grand talent parmi les jeunes gardiens espagnols. Ils prennent Juanito, qui est mine de rien pas une référence internationale, mais c'est une référence en Liga. Il récupère Jurado, il récupère Kleber Santana. Là aussi, Jurado, c'est quand même un bel espoir du foot espagnol. Il récupère Kleber Santana, donc il récupère José Antonio Reyes, l'ancien d'Arsenal, du Real. Donc, quand tu vois ça, tu te dis qu'ils ont besoin, tu vois, c'est soit pour équilibrer les comptes, soit pour acheter d'autres joueurs. Mais quand tu vends Agüero, tu prends qui? C'est ça, il faut savoir qui prendre. Les joueurs qui étaient vraiment sur le marché, qui n'étaient pas trop chers et accessibles pour eux, c'était Alvaro Negredo, mais je pense qu'entre entre Sevilla et l'Atlético Madrid, le Real aurait préféré Sevilla parce que c'est plus facile d'imposer les clauses dont je parlais tout à l'heure, à savoir qu'ils te le vendent à 16 millions et ils te mettent tout de suite une clause à 20 millions. Donc en gros, en 2 ans, ils ont l'occasion de racheter le joueur pour 20 millions. Je pense pas que l'Atlético Madrid aurait accepté ça. Ils ont tenté de voir un peu pour Gago ou Gonzalo Higuaín, mais bon, les deux n'ont pas voulu parce que c'est un peu comme Metzelder. Pareil, hein, ils avaient quand même pas mal de poursuivants, mais quand tu as une équipe comme le Real, tu vois, tu as pas spécialement envie de quitter un projet aussi intéressant. Donc, dire que ils vont les vendre moins cher, oui, forcément, parce que il est moins bon. Forlan, lui, est plus âgé, il va prendre de l'âge, donc forcément c'est pas bon pour les transferts. Mais après, n'oublie pas qu'en fin de saison il y a la Coupe du Monde. Forlan, bon, il sera. Agüero aussi. Forlan est quasiment même assuré d'être le titulaire indiscutable de l'attaque avec le joueur de l'Ajax, Luis Suarez. Donc il peut quand même flamber. Agüero, il est un petit peu dans la merde en ce moment en sélection, mais là c'est pareil, donc c'est pas forcément à voir, tu vois, juste sur une polémique, quoi.
Justement, est-ce que Agüero devrait pas partir à l'intersaison, histoire de gagner de déjà s'affirmer? Je veux dire, je sais que Chelsea était dessus, quoi, à un moment. Pourquoi pas aller à Chelsea et essayer de tout casser et pour avoir une place de titulaire en équipe d'Argentine, quoi, parce que ça va être chaud là, parce que.
Oui, mais le problème, c'est que c'est pas question de savoir si c'est à Chelsea ou à l'Atlético Madrid. La question, c'est plutôt de voir si Agüero va récupérer son niveau de l'an passé. 2 ans. C'est surtout là où il était très bon. Après, ce que je dis, tu vois, c'est un petit peu pas gâché, mais ses performances en Ligue des Champions masquent un petit peu ça, parce qu'en Ligue des Champions, il a été super fort contre Chelsea, où il entre en jeu, il marque 2 buts. Donc les gens ne seront pas forcément pour ce que je dis là, mais aller à Chelsea, ok, mais pourquoi finalement? Parce que il y a déjà Anelka, il y a déjà Drogba.
Ah, c'est une hypothèse que j'ai dit.
Il y a beaucoup de concurrents. Ouais. Et non, je sais, mais France. Alors que l'Atlético Madrid, il joue, quoi qu'il arrive, il est titulaire. Il est pas bon, mais il joue quand même.
Ouais, mais je pense que dans un club, un bon club anglais, quand même, je veux dire, par exemple, tu mets un Agüero à Liverpool, par exemple. Je pense qu'il fait énormément de bien déjà à Liverpool, et ça lui ferait énormément de bien.
Liverpool, ils sont pas spécialement dans une super, enfin, même s'ils ont fait, ils ont contracté des prêts avec une banque récemment, mais je suis pas sûr qu'ils soient capables de. Mais ça, c'est un président tête de cochon. Il est quand même un petit peu ultra super méga frigide, quoi, quand il s'agit de, il est psychorigide même, hein. Donc il ne vendra pas avant que tu payes la clause, et c'est à 65 ou 70 millions déjà.
Mais bon, c'est trop pour Agüero, hein.
Ah oui, c'est ça,
la saison 1 maintenant, c'est trop, hein.
Et puis
la saison dernière entre nous, hein.
Bah si, l'an passé, 17 ou 18 buts, il fait une dizaine de passes décisives.
Non,
c'est pas ça, c'est pas à cause du Real. Il y a la vision du Real qui est de dire tel joueur peut me rapporter tant d'argent, donc il le vaut. Mais Agüero, c'est ce que tu dois voir, c'est l'âge. Agüero, tu le prends 60 millions, mais il a 22 ans.
Ouais, c'est clair.
Tu peux le garder pour il est de 88. C'est Messi qui est 87, lui il est de 88. Tu peux le garder 10 ans, 11 ans.
Non mais c'est pour ça que son prix est aussi élevé, c'est son potentiel et son âge, hein. Agüero, il aurait 32 ans, il vaudrait pas 10 millions, hein. C'est.
Ben voilà, ben évidemment, parce que celui qui le prend, il le garde pendant longtemps. Donc voilà, ben c'est pour ça que je te dis. Non, c'était peut-être pas une bonne idée de leur. Je pense qu'ils ont bien fait de les garder. Après, s'ils gagnent moins d'argent, je veux dire, ok, mais la vocation de l'Atlético Madrid. Avant de gagner de l'argent ou pas, c'est d'avoir des équipes compétitives et sur
le papier, cette année, c'est plutôt
de renforcer. Vas-y.
Cette année, c'est plutôt de se sauver, quoi. Parce que vu ce qu'ils sont en train de faire,
ils se sauveront. L'Atlético Madrid, ils sont. L'an passé, ils étaient mieux partis que cette année, mais ils étaient même très bien partis, puis ils avaient eu un énorme creux, et ensuite ils s'étaient repris. L'Atlético Madrid est capable de se reprendre, et de toute façon, on l'a vu, hein, c'est l'équipe typique qui est capable de battre le Barça 3-2, et puis ensuite de perdre 3-0 contre eux. Donc non, sur la gestion du club, je suis pas sûr que ce soit forcément une mauvaise idée d'avoir vendu les deux, quoi.
Ouais, mais moi je vais donner un exemple pour rebondir là sur Agüero, le prix d'Agüero. J'ai entendu 60 ou 70 millions, c'est quelque chose comme ça.
Ouais, 65 ou 55.
Ouais, les gars, Torres, il a coûté 40 millions, je vais te chercher là. Il a coûté 40 millions d'euros au Real.
Ça a coûté. Oui, mais tu vois, relativiser, ça veut rien dire, parce que si Marley a coûté 18 millions, tu vois, donc on peut toujours trouver, si tu veux, des mecs. Ronaldo a coûté 17, donc tu vois, je peux toujours te dire, voilà, pour 18 millions, tu peux avoir Steve Mario, Cristiano Ronaldo.
Ouais, non, mais...
c'est pareil pour tout le monde. À 200 000 euros, tu peux avoir Koji Nakata ou Gustavo Poyet, comme l'avait eu Grenoble quand ils étaient en Ligue 2.
Et entre nous, combien elle a coûté Van der Vaart, mais... Van der Vaart, il est au Real,
je crois qu'il 23 joue... ou 24 millions, ouais.
Et ben regarde, il joue jamais, mec, et justement,
du mauvais. Ouais,
moi je le trouve pas du tout mauvais, Van der Vaart.
Il est très mauvais en Espagne, en tout cas.
Je suis pas d'accord avec toi.
Non, mais tu l'as vu jouer au Real. C'est la question.
Non, mais
pas avec l'équipe nationale, parce que
tu l'as vu jouer au Real, ok.
Franchement, tu tires des références, hein. Pour les bons,
non, mais franchement. Tu prends Van der Vaart. Moi je dis, tu prends Van der Vaart, ça le fait, je pense.
Mais
le mettre où? Bah, tu vends Agüero. Si t'arrives à vendre Agüero.
Ouais, c'est nettement plus compliqué. Toi, ce que tu demandes, c'est de changer complètement une organisation. Et après, il y a autre chose que tu dis sur Van der Vaart. Van der Vaart, tu vois, il est excellent si tu joues à Villarreal. Il est excellent si tu le mets à Tottenham. Il va être excellent à Hambourg. Mais le Real Madrid, l'Atlético Madrid.
Bah, l'Atlético Madrid, ça n'a pas le même aura que le Real quand même.
En Espagne, c'est brillant. Est-ce que Van der Vaart est capable de gérer la pression? Mais je vais même aller plus loin. Est-ce que Van der Vaart est suffisamment fort pour qu'une grosse équipe, après quand je dis grosse, c'est les grosses façons Atlético Madrid, mais très grosses façons Real, mérite que tu vois qu'on sacrifie toute l'équipe pour qu'il soit lui dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il est assez fort pour qu'il ait, pour être le moteur de l'équipe? Moi je suis pas d'accord. Moi je j'ai problème c'est qu'on l'a jamais vu faire ça.
C'est vrai. Moi j'avoue.
Avec à la Jax, bof. En équipe nationale, c'est pas lui le moteur de l'équipe, c'est Schneider. Donc voilà. Si tu m'avais dit ça par rapport à Schneider, je t'aurais dit oui, c'est peut-être con de l'avoir, c'est con de l'avoir vendu tout ça, mais d'autant plus que pour ce qu'il a prouvé en Espagne, il mérite absolument pas.
Moi je pense à Schneider aussi, tu vois, et justement il y a des joueurs à shipper au Real qui fallait le faire quoi. Il y avait un Mitola par exemple.
Non, mais attends. Soyons clairs. Il y a deux types de joueurs. Il y a ceux qui ont cartonné dans les petits championnats de merde. N'en déplaise aux fans de la Bundesliga et de l'Eredivisie, mais c'est des championnats de merde, c'est de la Liga. Et t'as des mecs qui ont brillé dans les gros championnats.
Chez Cronin n'est pas d'accord.
Non.
Oui, mais certes, mais. Oui, l'Eredivisie, elle est tellement forte que Marseille les a tous.
Ah non. Non, justement, le championnat d'Allemagne, justement.
Oui, mais l'Allemagne, ils sont tellement. Dernier demi-finaliste allemand en Ligue des Champions. Il a fait la finale de Leverkusen en 2002. Mais c'est ça le truc, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils font rien les clubs allemands qu'on peut pas les mettre dans le même panier que les clubs anglais, espagnols ou italiens. Et c'est ça. Non mais tu dis la Bundesliga. Tu peux me donner les derniers buteurs, les meilleurs buteurs de ces dernières années en Bundesliga?
En Bundesliga, le meilleur buteur de l'année dernière,
ouais. L'an passé, c'est Graffité. Celle d'avant, il y a deux ans, c'est Marek Mintal.
Oui, mais d'accord. Mais regarde ce qu'ils font en équipe nationale et les joueurs allemands, ils jouent tous chez eux.
Oui, ben moi, qu'est-ce qu'il a fait, Van der Vaart, en équipe nationale à l'Euro?
Ouais, mais l'Euro, je sais pas, c'est bizarre.
Mais c'est normal, Van der Vaart. En qualification, la Hollande a toujours les groupes de merde. Mais ils avaient la Norvège, C'est ça que je veux te dire, c'est qu'il faut, avant de considérer qu'un joueur comme Van der Vaart peut être un moteur dans une grosse équipe européenne, faut voir d'abord qu'il s'impose dans un grand championnat européen. La Bundesliga, c'est la deuxième division. C'est peut-être le meilleur championnat de la deuxième division, mais ça reste la deuxième division.
Ouais, si tu veux, mais moi je pense personnellement que la Bundesliga, il y a, c'est déjà mieux que la Ligue 1, personnellement, déjà. Alors, largement, 10 fois même.
Mais quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit.
J'ai dit que c'est meilleur que la Ligue 1, 10 fois.
Mais moi j'ai jamais placé la Ligue 1. C'est juste parce qu'il est tombé un mauvais jour où aujourd'hui j'étais plutôt gentil avec la Ligue 1. Tu vas voir un jour où je serai énervé ce que je vais mettre à la Ligue 1. Mais la Ligue 1, je la place même en dessous de l'Ukraine, moi personnellement, donc tu vois. Juste par rapport aux résultats des clubs ukrainiens ces dernières années. Donc, tu vois.
Il n'y a pas de problème. Si tu regardes les Français en Coupe d'Europe, après c'est sûr
que non, mais je te dis, le Portugal est au-dessus, la Bundesliga est bien au-dessus, mais évidemment, ça, il n'y a pas de discussion à avoir. Mais moi, je te dis juste que, pour revenir à Van der Vaart, il faut d'abord qu'il prouve en Espagne, il a été nul en Espagne. Et en plus, tu peux pas reprocher à Juan de Ramos l'an passé ou à Schuster de pas avoir essayé, parce qu'ils l'ont essayé à tous les postes. Il a joué dans un milieu A2, dans un milieu A3, il a joué en deuxième pointe, il a joué sur un côté, il a toujours été nul. Il a été bon une fois contre Gijón. Tu t'imagines, Gijón.
Ouais, c'est clair que c'est pas la référence. Mais peut-être que si, admettons, il part dans un club comme du genre, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Villarreal et tout, et qu'il explose à Villarreal, ça lui donnera peut-être une chance d'aller, pourquoi pas, à l'Atlético Madrid, on va dire.
Tu vois? C'est sur le long terme, là. Faudrait d'abord qu'il aille à Villarreal, ensuite qu'il soit
français. Des joueurs qui font une saison dans un club, qui cassent tout et qui se barrent. Maintenant, c'est
frais. Ouais, mais lui, il a jamais fait une saison dans un grand championnat. Et tu vois, bizarrement, pendant que je dis ça, j'ai plein de fans du Real depuis tout à l'heure sur MSN. Continue sur Van der Vaart. Merci. Tu vois, donc, je suis en train de parler depuis tout à l'heure, je vois les gens. Et puis, En plus, moi j'ai l'avantage de vivre en Espagne, donc c'est pas juste l'avis des gens sur le forum. Je lis ce qu'il y a dans la presse, je lis ce que disent les gens, tu vois, donc l'opinion publique. Et ils disent tous que Van der Vaart, il n'a pas sa place au Real. C'est pas un mauvais joueur, parce que les bons joueurs ne s'imposent pas toujours au Real. Il y en a plein même de bons joueurs qui ne s'imposent pas au Real. Mais lui, non, il est. Bon, après, un petit rectificatif de Juanito Malavia qui dit que Van der Vaart, c'est 13-14 millions plutôt que 20-25. Oui, en fait, j'ai confondu les deux, donc lui, c'était 13 millions, alors que c'était Schneider qui était à 25 millions, 26 millions. Donc, merci de m'avoir corrigé. Et donc, bon, pour revenir un petit peu. À part si tu as l'autre question sur l'Atlético.
Non, non, c'est bon pour l'Atlético, ouais.
Bon, j'ai ça. Voilà. Ils sont complètement à l'arrêt, puis c'est dommage parce que bon, en plus ils prennent Quique Flores, donc moi je suis extrêmement sceptique à son arrivée, quoi, parce que je pense que les fans de l'Atlético Madrid se rappellent ce que vaut Quique Flores à Valencia, où il n'a pas été brillant. Quique Flores, c'est quand même l'entraîneur qui a acheté Balboa, ça c'est quand même grave. Pas Rocky, mais celui qui ressemble à Predator. Il l'a pris pour 5 ou 6 millions d'euros. C'est franchement super grave. Et bon, en plus, on peut pas lui reprocher de pas avoir entraîné de beaux clubs, parce que bon, il a entraîné Valence, il a entraîné Benfica, il a entraîné Atlético Madrid, il a rien gagné. Bon, il a la Coupe de la Ligue portugaise, quoi. C'est le genre de championnat où on rigole parce qu'on comprend pas les règles. Et là, je sais. Voilà, donc, et puis, comme dit Sonny Gol, Villarreal supérieur à l'Atlético, pourquoi bouger de Villarreal à l'Atlético? Donc là, c'est évidemment Sonny Gol, c'est un fan de l'Atlético, de Villarreal plutôt, donc forcément il n'est pas objectif, mais je vais être méchant avec lui, je vais dire que quand on aime Sigan, on ferme sa gueule. Sonny Gol. Ah non, non, mais il sait très bien que je suis. Mais voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de vrai. Possibilité de que ça s'améliore, à part si les joueurs retrouvent par miracle leur niveau, mais au final, hein, l'Atlético Madrid, elle est capable de faire des miracles, donc pourquoi pas, mais je reste sceptique, hein. Donc on va enchaîner sur le deuxième match de la soirée et dire que je voulais faire une page un peu plus courte que d'habitude. On a fait une demi-heure juste sur l'Atlético. Donc le deuxième match, c'est Tenerife-Sevilla, donc match qui s'est joué dans une très bonne ambiance. C'est le match que j'ai le plaisir d'assister samedi soir. Donc déjà une minute de silence pour Robert Henkes, qui a joué un an à Tenerife. Ça a été à la fois une minute de silence pour lui, mais aussi parce qu'il faut savoir que l'Espagne, c'est un des pays où la violence de genre, donc les maris qui mettent des beignes à leurs femmes, est la plus haute. Donc il y a eu en même temps une minute de silence pour Henkes, mais aussi pour les victimes de ça. Donc en gros, il y a une grosse campagne en ce moment, où un petit peu comme Madrid 2016, où il faut lever la main. Donc là, tout le stade se met à lever la main pour en gros, en solidarité pour les femmes. C'est marrant parce que le mec, il lève la main, puis il rentre au stade, et puis il lève la main aussi sur sa femme. Donc ça veut rien dire, mais moi, je trouvais ça un peu ironique. Et puis, bon, sur le match en lui-même, là où je disais que Sevilla était quand même impressionnant, c'est que il laisse la balle à Tenerife pendant tout le match. Ils ont eu deux actions, deux buts. Mais vraiment, deux actions de but. Après, il faut dire que la qualité du banc de touche de Séville est quand même largement au-dessus. Sur le banc de touche, il y avait un Diego Capel qui n'est même pas rentré. C'est juste un international espagnol. Álvaro Negredo, pareil. Juste un international espagnol et puis il rentre en deuxième mi-temps. Pareil pour Romaric qui avait fait dresser le zizi à tout le monde en France. Et puis, en plus, à Séville, il est super. Donc voilà, ça montre un petit peu le niveau. Superbe match de Skilacci, qui est franchement un super joueur. Et puis là où c'est franchement impressionnant, c'est les deux flèches qu'ils ont sur les côtés. Donc Perotti et le nouvel international espagnol Jesús Navas, ça va franchement à 2000 à l'heure, mais vraiment 2000 à l'heure. Après, au-delà de la performance, il y a quand même le gros point négatif de Séville, c'est que c'est vraiment une équipe de pute. Mais quand je dis pute, c'est franchement une équipe de pute. Ça, je vous le dis, c'était horrible tout ce que j'ai pu voir, mais c'était monstrueux. Alors, on avait coup sur coup Luis Fabiano qui perd le ballon, qui le ballon sort des terrains et puis met un gros shoot dedans pour que les joueurs de Tenerife ne jouent pas. Il l'a fait trop.
Lui, il a une tête de pute, de toute façon.
De toute façon, ouais, c'est une tête de pute.
Il a la tête, hein, la tête de l'emploi. Lui.
Voilà, bon, c'est évident. C'est vraiment une grosse chienne. Tu as, oui, il y a aussi la spéciale Zocora Navas. Celle-là, c'était le. Dans le sublime, comme il y a dans 3-0 le film, c'est dans l'enculerie, là on est dans le sublime. Alors il y a touche pour Sevilla, Zocora demande le ballon, il fait un geste de la main pour que le joueur Tenerife donne le ballon, et une fois qu'il lui envoie le ballon, il baisse la tête et il avance. Genre, non, c'est pas moi qui joue la touche. Donc l'arbitre le voit pas. Jesús Navas fait la même chose, exactement la même chose, c'est qu'il lève la main, il demande le ballon, on lui renvoie, il se baisse, il la laisse passer. Malheureusement, il était, Jesús Navas est un peu con comme une pine, donc l'arbitre l'a vu, il prend carton. Et puis le dessert, la grande, mais c'est vraiment, c'est là c'est pas la cerise sur le gâteau, là c'est le gâteau qui est sur la cerise. Pelotti qui devait tirer les corners, mais il trottinait, ça veut dire qu'il faisait des bonds sur lui-même, genre pour faire croire à l'arbitre qu'il bougeait, mais en fait il bougeait pas, et il sautillait sur place, pour faire croire qu'il allait jouer la touche, le corner plutôt. Donc,
c'est un numéro de
Ah oui, non, mais ce qui est très frustrant avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont absolument pas besoin de. Ils ont vraiment pas besoin de ça pour oui, gagner.
C'est vrai.
Ils ont des joueurs, mais au-dessus du lot. Un mec comme Renato, tu dis à n'importe qui en France Renato, il te dit ouais, c'est une vieille merde, non. Nous, on a Pjanic. Ma que Pjanic. Renato, il t'a mis un but. Mais franchement, c'est les buts qui viennent d'une autre planète. Il reçoit le ballon, il fait un contrôle, il frappe pleine lucarne. Et quand je dis pleine lucarne, c'est pas la pleine lucarne Thierry Roland, là, celle qui a un mètre de la lucarne. C'était vraiment dans la lucarne. Mais vraiment pleine lucarne, une frappe magnifique en dehors de la surface. Le premier but, c'est une combinaison énorme, un mouvement collectif sublime, enfin, contre-attaque, parce que là, ils vont vraiment à 3000 à l'heure. Avec Jesús Navas qui décolle côté droit, Luis Fabiano qui fait un faux appel, un contre-appel. Et puis Perotti tout seul au deuxième poteau qui marque. Ensuite, bon, à 2-0, il menait, c'était largement fait. Bon, il y a Nino qui réduit le score. Nino, c'est le meilleur buteur du club, qui était meilleur buteur de deuxième division l'an passé. Sinon, après, sur Tenerife, bon, je pense que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je pense que vous vous en foutez de savoir que Omar a bien joué, ou que Ezequiel Lima est un bon défenseur, je crois que tout le monde s'en fout. Mais sinon je vais revenir sur bon, il y avait les absences des meilleurs joueurs, et là je pense que ça va faire rire tout le monde parce que toute personne les connaît. Il y avait Alfaro qui était pas là, voilà. Alfaro, c'est un international sous 21 ans, donc moins de 21 ans il me semble, avec l'Espagne, prêté par Sevilla. Et donc en Espagne, quand tu prêtes un joueur, il ne joue pas contre toi. Et puis Comé, l'international camerounais, et là c'est pareil, hein. Qu'une idée, j'ai juste dit camerounais, vous avez deviné qu'il était black. Donc, là, oui.
Mais ça sinon, fait quand même deux sacrées absences.
Bien joué. Non, en plus, il n'y a pas que lui. Il y a tout le côté droit qui est absent, parce que il y avait aussi Marc Bertrand qui est le capitaine. Nous sommes pareil, s'en fout. Mais sinon, pour faire plaisir à la Furia Roja, je vais parler de Mikel Alonso. Mikel Alonso, ça vous dit quelque chose?
Bien sûr. Non. Il est camerounais, non?
Il a un frère qui s'appelle Xavi Alonso.
C'est exactement
le même type de joueur, mais en moins fort. Mais sinon, c'est exactement le même type de joueur. La fausse nonchalance, et puis les passes. Il te met de ses passes, mais c'était monstrueux. J'ai vu les ouvertures de 60 mètres extérieurs du pied droit sur Omar, mais j'étais là en train de me dire, putain. Donc c'est franchement du Xabi Alonso, et puis comme Xabi Alonso c'est un petit peu notre chouchou, on fait le traditionnel Xabi Alonso, Xabi Alonso, Xabi Alonso. On répète toujours trois fois son nom. Donc voilà, en gros Tenerife a perdu. Sevilla, c'est là où elle est très forte, c'est qu'elle ne perd jamais, mais absolument jamais ce genre de match. Et puis en plus, avec la contre-performance du Barça, ils reviennent à 3 points du leader qui est dorénavant le Real Madrid. Donc on va commencer tout de suite par dire... Arrêtez avec Benzema. Je vois tout le monde qui est en train de s'exciter parce que Benzema a fait un bon match.
Oui.
Mouais. Moi, j'ai envie de dire mouais. Un grand mouais. Le plus gros enseignement, c'est que maintenant, on sait qui est le vrai meilleur attaquant.
C'est
Gonzalo Higuaín, bien sûr. même bon, même si Cristiano Ronaldo, moi je le considère pas encore comme un vrai attaquant, même si maintenant il joue plus sur un côté, c'est quand même.
Même vrai... c'est Higuain. Non, ah, non, même avec Cristiano, Higuain est énorme. C'est. Ah, c'est
avec Cristiano, Cristiano est meilleur. Mais avec.
Ouais, c'est avec... pas le même. C'est pas la même chose, quoi.
Bah, en fait, je suis quasiment attaquant. Hein.
Donc, oui.
Voilà. Et la pensée philosophique d'aujourd'hui, c'est Manuel Pellegrini qui dit on joue ni bien ni mal.
Oui.
Donc en gros, il fait du François Bayrou, pile au milieu. Pile au milieu. Sinon, c'était un match assez chiant. Bon, après, j'ai tendance à dire que les arbitres sont pas bons, ils sont en faveur du Real. Bon, même si là, il y avait un petit penalty de Mehdi Lassem, si vous connaissez, non? Sans opinion.
Sans opinion. Marlèche.
Marlèche, voilà. C'est un des nombreux joueurs qui passe en France, dont tout le monde se branle. Et qui ensuite va briller dans un autre championnat. Hein. On a bien vu avec Sissoko. Et puis lui, c'est pareil. Il y a aussi l'Assad qui a joué quelques temps en France et maintenant hein, il est titulaire en Liga. Bon, c'est quand même dommage. Il a joué à Laval, rien à foutre. Il a joué à Valence, enfin Valence, pas Valence, c'est à Valence de chez vous, rien à foutre. Et donc, ensuite, il est parti. Ouais. C'est quand même dommage parce que quand il est à Valence, il gagne quand même le titre de meilleur joueur du championnat. Donc, je sais pas, moi je me dis qu'un club français qui a un minimum de cerveau, il se dit ah, si c'est le meilleur joueur du national, peut-être qu'on va le prendre. Et ben non, c'est le Deportivo Alavés qui le récupère. Donc bien joué les clubs français. Ben, c'est dommage parce que j'aurais voulu que Marseille fasse ça et laisse Valbuena à Libourne, mais bon, ça marche pas ça. Donc bon. Sinon, sur le jeu du Real Madrid, c'est apathique. L'absence de la Sanadiara, elle s'est vue, mais de deux façons différentes. D'une part, il a énormément manqué au jeu du Real, parce que mine de rien, c'est quand même allez, le premier à créer du jeu. Et ça s'est vu aussi négativement, parce que Xabi Alonso était un petit peu plus à l'aise sur le terrain. Mais par contre, le gros, gros point positif du Real, c'est... leur super côté gauche du soir, Marcelo Drenthe. Je suis rentré du stade, je mets Gol TV, je vois Drenthe sur le terrain, j'ai eu envie de vomir.
Il est pas mal lui, hein.
Dans le jeu. Il est génial lui. Mais pas vomir vers l'extérieur, mais vomir dedans. Je voulais mettre ça. C'est. Franchement, c'est. Il est minable ce joueur, mais il est minable.
Mais c'est une blague,
je ne comprends même pas.
Ah, je comprends même pas. Chez Benzema.
C'est qui a dit ça? C'est encore un jingle pourri de Dan.
Dans le rugby. Je veux dire.
Ah, et puis, arrête maintenant, Dan. Et puis Marcelo. Bon, ouais. Faut arrêter de nous faire croire que c'est un défenseur, quoi.
Bah, comme tous les joueurs brésiliens.
Ouais, mais non, mais lui, tous les latéraux de Brésilien, en même temps, si tu mets dans le même panier Marcelo, Maxwell et Maicon.
Ah, Maicon, hein.
Ça va être mal. Hein,
Maicon, c'est un attaquant, c'est sûr.
Maicon, c'est un vrai, c'est justement.
Ah, mais voilà, donc tu vois, il y a quand même des défenseurs brésiliens qui sont capables d'être bons, mais bon, Marcelo, c'est une blague, quoi. C'est franchement une blague. Et puis surtout que c'est les latéraux espagnols, latéral gauche en Espagne, c'est pas ce qui manque, quoi. Hein, tu as Canella qui joue à Sporting Gijón, tu as Ignacio Monreal de Osasuna. Bon, après, je me doute qu'ils vont pas aller shipper Capdevila de Villarreal, mais bon, il y a quand même du choix. Mais bon, c'est quand même dommage, quoi, parce que en plus, ils ont joué avec une équipe un petit peu bâtarde, parce que ils ont enlevé leur 4-4-2. Enfin, ils jouaient un 4-4-2, mais plutôt à l'espagnol. Donc, en gros, c'est un récupérateur, un relayeur, deux sur les ailes et deux attaquants. Là, ils nous ont fait une sorte de 4-4-2 en losange avec Granero à droite. Alors, Granero à droite, c'est le meilleur moyen de gâcher tout ce qu'il a fait depuis qu'il cartonne en Liga, parce que à ce poste-là, il est super mauvais. Même si, bon, il y a quand même beaucoup de Madrilènes qui continuent à l'accorder du crédit, parce que il a été formé au club, même s'il est passé par Getafe. Bon, au final, il est nul. Et puis, Kaka, c'est la vraie belle blague de ce mercato. Hein. 64 millions pour Kaka.
Oh, je suis pas d'accord là. Tu penses que c'est une blague, quoi? Enfin, je veux dire, c'est Kaka.
Tu l'as vu Kaka jouer cette année?
Oui, mais cette année, non, mais attends.
T'as vu jouer Kaka l'an dernier?
Oh, les gars, faut peut-être lui laisser le temps de s'acclimater un petit peu, c'est peut-être ça aussi.
Il joue numéro 10, c'est acclimaté à quoi? Il joue numéro 10.
Oui, mais c'est pas pareil, le gars, il a toujours été à Milan, enfin, je veux dire, voilà, et là, il change de club, comme ça, surtout qu'il
y a un nom qui vient en même temps. Non, c'est trop simple, cette histoire d'adaptation, parce que, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en France, tu prends un joueur à 300 000 euros, il est pas bon 6 mois, tu le gères comme une vieille merde. Et là, tu te dis, ouais, mais de toute façon, voilà. Kaka, il n'est pas bon.
Les Français n'ont rien compris.
Kaka, il n'est pas bon. Il a joué à plusieurs postes. Il n'est toujours pas bon. Il a fait un gros match. C'était contre le Deportivo La Corogne. Deuxième journée du championnat. Donc, ça date quand même. Hein. Ouais, il a été vraiment très bon. Sur le reste, il ne mérite absolument pas son prix. Et puis, tu me parles de ses dernières saisons. D'accord, mais il était nul au Milan l'an passé. L'an passé au Milan, il a passé son temps
chialé. Encore quand même. Tu peux pas dire qu'il ne mérite pas son prix. Enfin, je veux dire...
Ouais, Shevchenko, c'est un ballon d'or. On a vu comment il s'éclatait à Chelsea.
Ouais, ils ont pas le même âge.
C'est pas ils ont pas le même âge, mais bon. Non, mais je te dis que c'est pas parce que tu es ballon d'or. Bah oui, parce qu'en Italie, on nous explique que c'est soi-disant le championnat le plus dur pour s'imposer. Bah oui, mais on voit que deux des meilleurs joueurs de ces dernières années, dans le calcio, dès qu'ils se sont barrés, ils ont coulé.
Mm-hmm.
Ah oui. Kaka, il est vraiment en train de couler.
Tu penses à qui? Malheureusement.
Bah, Shevchenko et Kaka.
Oui.
Le problème, c'est que sur ce match, il est un petit peu mieux que d'habitude. Mais bon, là, c'est pareil. 64 millions, ils l'ont payé. Kaka, oui, 64 millions.
On est d'accord que le Real, il a abusé. Mais je veux dire, quand tu prends en proportion avec Ronaldo, etc., je veux dire, il les vaut largement dans ce cas-là. Bien sûr qu'en réalité, il ne vaut pas ça. Je suis OK, bien sûr. Mais aucun joueur ne vaut ça. Mais je veux dire... voilà, proportionnellement.
Excuse-moi, Cristiano Ronaldo, même 94, c'est peut-être cher, mais Cristiano Ronaldo, il a joué 7 matchs avec le Real, 7 buts.
Oui, mais lui, c'est un alien, c'est un joueur.
9 buts.
J'ai quand même une réaction sur Nigo, le
chef. Mais 2 doublés en Ligue des Champions.
2 doublés en Ligue des Champions. Je te coupe 2 secondes. Il y a quand même, Sonny Gould, donc il met quand même que Higuain est supérieur à Cristiano. Il nous met, c'est du bourrage de crâne des médias. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'Higuain est meilleur en ce moment.
D'accord, petite question. Ouais. Il vient de quel club, Gonzalo Higuain?
J'ai pas bien entendu, répète.
River Plate. Le club vient
de... Cristiano, il est mon geste.
Non, j'étais dit Gonzalo Higuain.
Ah, Higuain, oui, d'accord.
River Plate. Quel club supporte Sonny Gould?
River Plate, d'accord. Je viens de le voir. Hein,
espèce de petit... Non, mais Sonny Gould, c'est un petit connard.
Non, mais moi, effectivement.
C'est un petit connard. Il fait de la propagande. Je t'ai dit, Sonny Gould, laisse tranquille. Tout à l'heure, on va parler de Villarreal. Je vais être tranquille. Mais commence pas avec tes Higuain meilleurs que... Non, mais plus sérieusement, évidemment, c'est un super joueur. Higuain, c'est le meilleur joueur du Real l'an passé. C'est l'un des 3 meilleurs joueurs du Real actuellement avec la Sanadiara. Bon, allez, c'est dur à
vous. Est-ce qu'il a marqué
4, parce que sinon, tu peux être obligé de dire, comment il s'appelle, de mettre Casillas dans le.
Ouais.
Dans le lot, mais voilà, quoi, c'est quand même un super joueur.
Revenir en vitesse sur Kaka, tu penses quand même qu'il a le potentiel pour réussir au Real. Je veux dire, même si c'est vrai qu'on attend plus de lui et qu'il fait pas le début de championnat qu'on attendait de lui, etc. Et alors qu'il vaut 64 millions, etc. Mais je veux dire, tu peux quand même espérer quelque chose de lui.
Mais oui, mais le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas bon.
Pour l'instant.
Ah oui, pour l'instant. C'est plutôt que nul, on va dire que c'est moyen ou médiocre. Ouais, en fonction de la sévérité. En fonction de la sévérité. Comme tu as pu le constater, je suis relativement sévère. Donc moi, je préfère dire
mes choses.
Non, mais voilà. Moi, je pars du postulat, si tu veux, que quand un mec arrive à 64 millions d'euros et que le mec, pendant des années, il joue au senior en Italie, il doit le montrer qu'il est un bon. Là, pour l'instant, il le montre absolument pas.
En parlant de tout ça, on va peut-être faire un petit coucou à Toumou. C'est un petit peu notre propagande du soir. J'interviens dans le... Je vous interromps un petit peu dans votre truc. Un petit coucou à Toumou. Donc, coucou Toumou. Ceux qui veulent se mettre avec moi font un coucou Toumou. Et on repart pour l'Espagne.
Je fasse un
coucou. Merci Dan de me faire faire de la merde quand même.
Un coucou Toumou. Espèce de connard. Pour citer Momo de Bouze, la prochaine fois que tu me coupes, je te défonce. Bah non, mais d'ailleurs, Sonny Gold qui dit ah lol 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 lol, je déconne bien sûr, Ninja au cas où lol. C'est bien quand je lis les smileys en même temps. Non, non, mais ben, bon, évidemment, c'est un super joueur, Higuain. Moi, je pense juste qu'il a montré que, avec le petit duel qu'il oppose à Benzema, qu'il est au-dessus. Bon, c'est vrai. J'enchaîne donc avec le dernier match de la soirée. C'était Athletic Bilbao Barcelona. Un match super moche, comme quoi ça arrive. Le match de Real, du Barça moche.
Messi va s'en souvenir, je crois.
Mais s'il va s'en souvenir parce que il s'est mangé
une semelle d'un truc de fou. Ouais.
De Fernando Amorebieta, et pourtant qui est pour moi un des meilleurs défenseurs de la Liga, même si c'est un gros bourrin.
Il a fait du karaté quoi.
Ouais, il a fait du karaté. Non, mais c'est franchement un vrai bon joueur, tu vois, c'est le genre de joueur, s'il est pas à Bilbao, on en parle quand même un petit peu plus, mais après le truc c'est que Bilbao quand ils veulent mettre des coups, ils sont champions du monde. C'est l'une des meilleures équipes avec Osasuna dans ce
petit cas.
Ah oui, va t'amuser à jouer à Osasuna.
Ah oui, voilà, ce qui paraît. J'avais entendu une interview de Zidane, je crois, qui parlait que c'était le match le plus chaud, hein, pour le Real. C'était d'aller à Pamplune là-bas. Il disait que c'était chaud. Hein.
On te fait bouffer tes chicots là. Hein. Je peux te jurer qu'il. Moi, là, non. Surtout quand ils jouent contre des gros, parce que là, vraiment, ils ferment le jeu. Sinon, il n'y avait pas de gros intérêt franchement sur le match. Mon but, je donne rapidement le buteur, un but Alves et égalisation de Toquero. Sinon sur le reste, ça n'a pas été terrible. À noter quand même le plus bel instant du match, c'est l'ovation du public de Bilbao quand la pute est entrée à la 83e minute. Ah oui, pour les petits nouveaux, la pute c'est le nom de code pour Henri.
Ouais, ça je m'en doute hein.
Ça va aller tout de suite.
Souvenez-vous, non, parce que je vais. Non, ça a été décrété lors de la dernière émission. Toute l'année maintenant, je l'appelle la pute. À moins qu'il sauve du bébé chilien, de la noyade, ou qu'il aille aider à la reforestation.
Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est une question, j'étais pas là à la dernière émission.
Faux cul, hypocrite, profiteur, manipulateur, menteur.
C'est quoi? C'est l'image de la fin où il est à côté d'eux et il essaie de les réconforter, soi-disant. C'est ça que t'as choqué, en fait.
Non, c'est un peu tout ce qu'il a fait, quand même. À part la main.
Dans sa carrière?
Non, non. Sur tout ce qui s'est passé depuis. Sur tout ce qui s'est passé depuis. C'est, à part la main. Bah, la main, ça m'a choqué, mais bon.
Pas plus que ça.
Des tricheurs sur un terrain, ils trichent tous. Et puis, moi, le cas, on a même le contre-exemple de Daniele De Rossi. Moi, je suis pas sûr que Daniele De Rossi fasse ça si ça allait éliminer l'Italie, quoi, tu vois.
Largement, bien sûr que si.
Mais sûr qu'il, moi, je pense qu'il le ferait tous, tu vois. En plus, je suis mal placé pour le faire.
Surtout les Italiens.
À mon modeste niveau, je l'ai fait plusieurs fois, donc le petit coup de la main qu'on rabat. Mais la seule différence, c'est que moi, après, si on me dit Yamin, je dis oui, Yamin. Je dis clairement oui, Yamin, je l'ai fait exprès. Donc voilà, lui c'est un faux cul, parce que d'abord il nous fait croire qu'au début il nous a dit que la main était involontaire. Tu l'as vu quand il la repalpe? Tu veux que je te redonne la même expression que
j'ai utilisée deux fois?
Attends, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée autre fois, on aurait dit un mec qui sortait de prison qui venait de palper le cul d'une nana. Il y allait avec envie, quoi. On peut pas me faire croire que c'est pas un geste de vicieux ce qu'il a fait. Donc après, moi, qu'ils disent après coup, c'est un vie, ils disent oui, je l'ai fait. Volontairement, pour moi, c'est fini la discussion. C'est un mec qui assume au final. Moi, l'acceptation de ses erreurs, c'est le plus important. Lui, il accepte absolument rien et il est hypocrite au souhait. Alors d'abord, premièrement, on lui pose la question de la main, il dit ouais, involontaire. On sait très bien que c'est pas involontaire. Mais on va pas
être la première fois qu'il la touche, si je pense que
non, mais ça je l'ai dit tout à l'heure aussi en off. La première fois qu'il la touche, c'est involontaire. Mais la deuxième fois, non, c'est pas involontaire, c'est plus que volontaire. Donc ça, mais à la limite, ça, je m'en fous. Je t'ai dit, honnêtement, je m'en fous qu'il l'ait fait volontairement ou pas. Après, il va exulter. Mais, je sais pas, tiens, un peu de respect. Un peu de respect.
Ouais,
j'attends même pas que Thierry Henry respecte les autres. C'est peut-être trop pour lui. J'attends juste qu'il se respecte lui-même. Lui, il va se la péter. Il va choper la tête de Galas. Vous avez l'impression, moi, de voir un combat de titan, là. Franchement, j'avais l'impression de voir une publicité entre Manny Pacquiao et Mayweather Junior, quoi. J'avais l'impression que c'était un truc. Ensuite, après coup, il dit que, on lui pose la question de savoir s'il le fait volontairement. Il dit que non. Il dit, c'est à cause de l'arbitre. Donc l'arbitre qui était présélectionné à la Coupe du Monde, il peut aller se palucher, il peut déjà réserver ses vacances ailleurs, hein, parce qu'il n'ira pas en Afrique du Sud.
Non mais il est nul à chier donc.
Oui mais non, il n'a pas été nul jusqu'à cette main-là.
À part cette action-là, non.
Oui. Donc, oui, mais il l'a pas. Ce que je veux t'expliquer, c'est que cette main-là, tu sais bien que l'arbitre ne l'a pas vue. On est d'accord. On n'est pas là en train de dire qu'il y a eu un complot pro-français ou. Non, évidemment, non, moi je rentre pas dans ces considérations-là. Donc, l'arbitre a fait. Il s'est vraiment trompé parce qu'il ne l'a pas vu. Et là, il lui dit c'est à cause de l'arbitre. Donc, ça c'était au cas où vous avez un doute, c'est lui. Quatrièmement, on lui pose la question si ce but entache un petit peu ou lui gâche la soirée. Il fait non, on est qualifié. Donc là, on est dans le somptueux. Et là où il fait super fort, c'est qu'après il va dire j'aimerais qu'on rejoue le match, alors qu'il sait pertinemment que la FIFA n'a aucune chance de redonner ce match à rejouer.
C'est pour ça faire veut dire bien, que... ça qui
mais c'est il a dit. Hein.
Oui, mais c'est ça que je te dis. Donc, quand tu dis que c'est pour faire bien. Toi, tu es français, donc tu as naturellement plutôt le parti de défendre Thierry Henry, parce que mine de rien, il vous a sauvé d'une situation très compliquée. Ça, je
mais
peux le
comprendre. Mais lui-même est français, donc je peux pas lui reprocher de fêter le fait d'avoir sauvé mais son pays, quoi. Ça.
Moi, je ne le
c'est reproche pas. C'est pas ça que, attends, je peux dire que je pense.
Je reproche le fait qu'il a utilisé le système à mort juste pour sauver son image. Parce que, non, mine de rien, quand il s'assoit à côté du public, tu sais très bien qu'il le fait parce qu'il sait qu'il y a les caméras.
Oui, bien sûr.
Mais c'est tout ça que je n'accepte pas. Alors, me dis pas pourquoi.
Mais ils le font tous. Alors, dans ce
non, cas, non, c'est pas vrai, ça. Mais c'est pas vrai, ça, enfin. Maradona, quand il va enculer les Anglais, à la fin du match, il dit, si j'ai à le faire, je le refais 30 fois. Et il assume le fait que c'est une petite garce. Donc, après coup, quand les gens le traitent d'enculé, lui, il les regarde en souriant, il dit, oui, j'en suis une. Henri, il fait exactement pareil. Et ensuite, il pleure parce qu'il dit, oh non, mais on va dire que je suis un méchant. C'est pareil pour Zidane. C'est pareil pour Zidane. Il en a fait toute sa carrière des coups de pute comme ça. Il a mis des coups de boule, il a tenté d'étrangler des gens, et à la fin on dit que c'est un mec bien. Non, c'est pas un mec bien, c'est un gros con sur le terrain. C'est tout,
ouais,
il faut
l'assumer
ça. Moi je te dis, c'est pour ça.
Il faut savoir quand même, attends, je te coupe deux secondes juste pour dire quand même, Zidane c'est quelqu'un, je veux dire, il est attaqué de tous les côtés, je veux dire, on savait que c'était la
passe maîtresse. C'est trop facile
non,
ça,
mais je veux dire, non, mais
Mais non, mais t'es le pire. En plus, tu me dis ça, je suis le numéro 10. Je sais ce que c'est que de me faire charcuter. Mais moi, quand je me rebelle et que je mets un coup de coude, j'ai jamais dit de ma vie, je n'ai jamais dit au coach, non, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'entraîneur. Il te pose la question, quand tu es un amateur et que tu fais une connerie pareille, ta première réponse, si jamais tu dis à ton coach, c'est à cause de l'autre, il te met sur le banc le prochain match. Tu es obligé d'accepter ton erreur. Tu dois accepter.
Tu as toujours accepté. Tu parlais
de ça. Quand est-ce qu'il a accepté?
À chaque fois, il a dit qu'il le referait, c'est parfait. Il a dit, je suis d'accord, c'est pas un truc qui se fait, les enfants
regardent. Mais ensuite, quand il parle de Materazzi, il dit, quand il parle de lui-même, il dit la victime. Et quand il parle de Materazzi, il dit le responsable et le coupable. C'est les deux mots qu'il utilise. Je vois qu'on est très loin de l'acceptation. Quand il étrangle, qui calme
la messe. Moi, je vois un grand con comme Materazzi.
Pourquoi un gros con, Materazzi? Parce qu'il a eu des cartons rouges. Bah, Zidane aussi, il en a eu 12. Oh non, pardon, 14. Il a mis un coup de poing de Seid. Il a mis un coup de boule à des défenseurs d'Hambourg. Après, donc quoi? En gros, c'est tous des enculés sauf lui.
Non, mais Materazzi aussi, il collectionne les fantasmes quand même.
Mais la différence, là, c'est pareil. Materazzi, mais on parle pas de footballistiquement, on parle au niveau de l'acceptation.
Non, je parle, oui, bien sûr. C'est ça que je.
Materazzi, quand tu lui poses la question, il te dit. Oui, je l'ai fait.
C'est un gros con.
Il te dit oui, c'était une erreur. Voilà, Zidane et là, donc Henri, ils te disent que c'est pas des erreurs. Et puis ensuite, est-ce que tu as vu le cirque qu'il fait lors des 10 minutes où il est sur le terrain?
Qui ça? Henri,
ouais. Là encore, il est en train de se ventre. Ou le mec, il n'a jamais été un leader. Mais il n'a jamais été un leader. D'équipe, c'est un leader technique, c'est un leader offensif, mais ça n'a jamais été un leader. Et là, il joue au gros patron, il bombait le torse, il replaçait tout le monde. Là, on est encore dans la com. Là, on est encore dans la com. Et c'est ça que j'aime pas. Moi, les footballeurs qui contrôlent leur com, je ne les supporte pas. Et puis honnêtement, tout simplement, c'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté.
Il y a Cristiano qui est pas mal alors, dans ce cas-là.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, Cristiano?
Il a jamais rien fait, Cristiano.
Ah, non mais attends, Cristiano, il ne signe jamais, il exagère.
Mais pardon ?
Non, il... attends. Attends, parce que toi tu confonds simuler et exagérer. C'est pas pareil. Simuler, c'est il y a absolument rien et tu te jettes. Lui, on le touche toujours et puis il exagère. Mais s'il y a contact, l'arbitre a le droit de siffler.
Simulation.
Non, non, bah non. Une simulation, c'est quand tu pars de zéro, qu'il n'y a même pas contact et tu te jettes. C'est Fiorez en gros. La simulation, c'est Fiorez. C'est, tu le touches pas, il tombe. Tu le touches pas, il tombe. Lui, il exagère. Comme Henry. Henry aussi a déjà exagéré et plusieurs fois. Tu te rappelles du match de Coupe du Monde 2006
du Monde, oui, voilà, le bloc, là.
Il se jette. Tous les joueurs.
Ça, il avoue, tu vois, tu dis qu'il avoue pas, par exemple.
Oui, mais ça, il le dit pas, ça. Quand est-ce qu'il dit qu'il a triché?
Il, dans, comment il s'appelle le reportage, la merde?
Rendez-vous le 9 juillet.
Rendez-vous le 9 juillet, là, dans le reportage.
Ah, ouais, vachement, hein. Rendez-vous le 9 juillet, quoi. Vachement, c'est, si c'est pas de la propagande, là, rendez-vous le 9 juillet, tu vois. honnêtement, au niveau de l'honnêteté intellectuelle, rendez-vous le 9 juillet, ça vaut OLTV, quoi. Je l'ai vu, en plus, rendez-vous le 9 juillet. OLTV, OMTV, on est d'accord.
Je veux dire, OLTV, c'est du lourd.
Non, mais on est d'accord que de toute façon, dans rendez-vous le 9 juillet, je l'ai vu en plus, il y a aucun moment où tu vois l'équipe de France dans, sous ses mauvais aspects. À part sur le terrain. Et donc là, ils sont pas critiquables parce que c'est sur le terrain. Mais je veux dire que humainement, on les présente comme des mecs super bien. C'est pas tous des mecs super bien. C'est tout. C'est ce que je veux te dire. Donc moi, pourquoi j'ai pas aimé tout ça, c'est parce que maintenant, encore maintenant, Maradona, si tu parles pas du joueur, mais de l'homme, tu dis que c'est une crapule.
Oui, bah oui.
Pourquoi pour Henry, on dirait pas que c'est une crapule? Pourquoi Zidane, ce serait pas une crapule? C'est ça la différence d'acceptation. On parle de contrôler son image. Dans tous les pays, quand un joueur ou un sportif ou un homme politique, un acteur contrôle son image, on l'apprécie moins que les gens spontanés. Nous, on les déteste. On a un bel exemple qui est avec nous, dont il faut en parler, c'est Chris Dreams avec Clijsters et Justine Hénin. Tu as les deux extrêmes. Justine Hénin, elle est ultra calculatrice, elle gère tout. En Belgique, ils ne l'aiment pas. Et Clijsters, parce qu'elle est naturelle, on l'apprécie, c'est ça. Là, c'est mon avis, tu vois. Il faut s'assumer en tant que personne. C'est même pas mon avis, c'est que on a tous eu la même éducation, grosso modo. Hein. Je parle pas des mecs à qui les parents expliquaient que c'est bien de taper les petits Israéliens ou des trucs comme ça. Non, on parle pas de ces tordus-là. On parle des gens normaux. Tous tes parents t'expliquent, assume tes conneries. Je veux dire que ton père ou ta mère a dû te répéter 30 fois ça. Ou assume tes erreurs. Ou il faut que tu sois plus responsable. Pourquoi les footballeurs ne sont pas, c'est nul. Non mais c'est ça. La grande différence entre la majorité des gens et entre guillemets les Français, quand je dis les Français, ceux qui pardonnent à Henri pour ça, c'est que on juge les footballeurs comme des êtres humains normaux.
Moi, je pense que ça en fait tout à fait, parce que c'est Henry et parce que c'est l'équipe de France.
Une question. Si Henry, après le match, il fait pas tout ce bordel là, il va pas s'asseoir derrière la caméra, il va pas dire ça, et puis à la fin, il fait oui, c'était une main volontaire. Parce que moi, tant qu'il dit que c'est une main involontaire, il assume rien. Tant qu'il dit pas c'est une main volontaire, il assume. S'il dit après le coup, oui, c'est une main volontaire, mais ça fait partie du jeu. Bah, on va dire que c'est un enculé, mais là au moins tu as une trentaine d'arguments pour le défendre.
Ouais, moi je crois pas qu'on critique Henry parce que c'est Henry ou parce que c'est l'équipe de France, c'est parce que c'est l'événement tout simplement, c'est une Coupe du Monde, c'est le fait qu'on gâche 4 années de la fédération
irlandaise. Mais ça aurait été l'Irlande, c'est pareil, on est d'accord ou pas?
Si ça avait été qui?
L'Irlande qui aurait fait ça, on s'en fout.
Et bien sûr que ça aurait été, bien entendu.
Mais tu dis, on s'en fout. Mais si Robbie Keane après.
C'est la guerre civile entre la France et l'Irlande. Si l'Irlande avait fait ça. C'est la guerre civile, les Français sont dans la rue. Hein.
Non mais c'est ça que je veux te dire, c'est que tu me dis ça, mais justement, c'est justement pour ça que je te dis, je comprends pas ton attitude, parce que toi, tu viens de dire exactement que si c'est un autre pays qui fait ça contre ton pays, tu réagis exactement pareil que moi, aujourd'hui. Donc, où est la limite?
Je dis simplement, je pense pas qu'un Robbie Keane ou quoi que ce soit, il se serait gêné pour mettre la main, c'est tout ce que je dis.
Non, mais ce que je te dis, et là encore... Pour les défenseurs d'Henri, je vous explique juste un truc, il n'y a personne qui critique le fait qu'il la touche la main. Tout le monde critique ce qu'il dit après.
Non, Ramayad a critiqué ça. Elle a dit qu'il n'avait pas fait ça.
Ramayad, on s'en prend, Ramayad.
Non, mais...
Ramayad, quand il est arrivé sur le terrain, il a dit ils sont où les palettes. Il ne comprend rien, celle-là. Faut pas déconner. Ministre des Sports, tu lui dis Borussia Mönchengladbach, elle dit on mange ça avec des baguettes. C'est comme ça. soyons logiques deux secondes. Hein, elle comprend rien. On l'a mis là parce que c'est parce que ça fait beau de mettre un peu de diversité ethnique entre guillemets.
Je plus
le pire. Le pire c'est la ministre de l'économie qui a parlé quand même. Ça reste le pire pour moi. Elle a quand même dit Henri, il aurait pas dû faire ça. Nanana. Elle a quand même osé dire un truc.
Non mais c'est comme Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Non, quand il était déjà président, quand il va assister à la finale de la Coupe de France PSGOM, il y a un mec qui arrive avec une écharpe marseillais anti-parisien, il lui fait on peut pas être marseillais sans être parisien, mais ta gueule, espèce de footix, tu comprends rien, normal que tu dises ça. C'est un footix, il comprend rien. Lui c'est pareil, hein. Il est arrivé, il voit le foot, il fait d'où David Douvou. C'est pareil, ils comprennent rien ces gens-là. Non mais bref, donc. Après, n'en déplaise malheureusement, et je vous le dis malheureusement pour vous, moi, jusqu'à preuve du contraire, je dirais toujours la pute.
Ça va pas ce que je dis. Moi, ce que je dis simplement, c'est que la France s'est tellement fait niquer dans ces barrages, dans l'histoire, hein, je parle, que je veux dire là, voilà, ça me fait pas plus que
pourquoi
ça.
Pourquoi niquer deux fois?
Mais quand, comment il s'appelle, putain, quand l'Allemagne. Schumacher, quand il défonce l'autre, que l'autre il ramasse les noms par terre.
Ah, mais toi, tu sors les vieux trucs comme ça.
Attends.
Ah oui, alors moi, je te dis contre la Croatie, à l'Euro 2004, Henri marque du bras. Ou Trezeguet marque du bras.
Habib, c'est même pas ça le problème. Ici, si nous, enfin, vous, Français, beaucoup de Français,
il y a... Deux Français.
Non, Français sur 10 qui ont contesté la victoire de l'équipe de France, donc selon un sondage.
C'est déjà
significatif. Non, mais ce que les Français en majorité pensent, c'est que c'est honteux vis-à-vis des Irlandais. Et quand il y en a qui viennent me dire, oui, mais en Serbie, il y avait peut-être pénalty. Oui, mais Schumacher a fait un attentat en Allemagne. Oui, je veux bien, mais je veux dire, les Irlandais, ils s'en battent les couilles. Ils sont lésés. Et quand il y a eu l'attentat de Schumacher, en Coupe du Monde, ça a fait les gros titres aussi, il faut pas croire. C'est parce que maintenant on dit, oh mais nous on est blasés, on était victimes, donc bon, tout passe tant que c'est pour la France.
Mais au-delà de ça.
Et si ça avait été pour l'Irlande, tu aurais dit, encore une fois on se fait enculer, c'est ce qu'on
a. Non mais même pas ça, tu me parles de ça, mais au-delà de ça, Materazzi quand il provoque Zidane, c'est dans le jeu, c'est un fait de jeu. Tout le monde a dit que Materazzi c'est un enculé, un fils de pute, que sa mère elle mangeait des cochons, bref, on a sorti vraiment des trucs énormes sur ça, mais énormes. Et puis maintenant, quand c'est au profit de l'équipe de France, on explique tous que ah oui, ça équilibre, oh oui, ceci, cela. Bah non, non. Et puis il y a un truc que je trouve particulièrement détestable, c'est que pourquoi on est en train de justifier la main d'Henri en montrant plein de vidéos d'autres mains? Pourquoi on est forcément...
On a toujours dit qu'on parle pas des gens là, justement, pour dire que eux, ils font plein de mains, et pourtant on dit rien. Et moi, je peux te donner même un exemple, c'est dans les qualifs, là, avant les barrages. L'Irlande, ils mettent un but de la main contre la Serbie. Et on n'en a pas entendu parler, et ça a pas fait les gros titres. Et pourtant, Dieu sait que le but là leur a fait du bien, je veux dire. Et on l'a pas entendu, ça.
Ouais, mais enfin, si tu commences à faire des trucs comme ça, putain, la France aussi, elle en a dû en avoir des quarantaines de buts comme ça, sur des pénaltys bizarres, sur des fautes bizarres. Sur des actions bizarres, tu vois, ça c'est vraiment le foot. La seule différence, c'est que là c'était énorme, c'était trop gros.
Non, c'était trop gros,
et que ensuite Henri nous regardait droit dans les yeux, et en nous disant oui, vous êtes des PD, oui, je me fous de vous. C'est ça, au final, c'est malheureusement pour vous, c'est un peu comme ce que je disais sur le Sevilla, vous n'avez pas besoin de ça pour gagner. Mais vous êtes tellement ancré dans une image de tricheur, de perversion avec Domenech. Que maintenant ça déteint sur les joueurs. Vous avez vu le changement d'attitude d'Henri. Henri était toujours cool en équipe nationale. Et maintenant il est là en train de nous expliquer que non, j'ai fait une main volontaire.
Non, mais Habib, c'est peut-être un peu caricatural, mais ce que tu
as. Malheureusement, si. On a vu l'attitude d'Henri qui change au fur et à mesure. Tu me dis ça, mais est-ce que tu te rappelles aussi quand, je sais plus si c'était avant la Serbie, après la Serbie, où il y avait une conférence de presse, parce qu'apparemment il y a des gens qui ont dit oui, Henri et Domenech sont pris le chou. Et Henri arrive et fait non, ouais. J'ai jamais eu de dispute. J'avais l'impression de voir Jacques Rogge. Tu te rappelles quand on lui posait la question de savoir s'il est, comment il s'appelle, les protestations du Tibétain, ça le dérangeait.
Ouais, c'est logique. Jacques Rogge,
c'est logique. Des interventions. Bah lui, c'est pareil. On est dans un truc de mensonge. La différence, tu veux voir la différence entre comment dire ça, contrôler sa communication ou pas. Maradona est en train de te dire suce-la, il reste en train de la sucer. Voilà. C'est con comme une pile, mais au moins il est franc. Il te ment pas.
Ouais, et puis la différence avec les anciennes erreurs, c'est qu'ici le match est important, c'est que c'est une erreur qui qualifie la France, et c'est une erreur qui élimine l'Irlande. Après, on peut toujours dire oui, mais sans cette erreur, la France n'est pas éliminée. Elle aurait pu très bien se qualifier en Coupe du Monde au tir au but. D'accord, mais c'est quand même cette erreur lâche le travail de 4 ans des Irlandais. C'est pas une erreur en match comme ça de compétition avec 3 points.
Excuse-moi. Je vais juste pour revenir à la Liga, parce qu'il y a quand même des gens qui attendent ça et qu'on a fait un gros boulot hors sujet. Juste un truc, moi je m'en fous que l'Irlande soit fait éliminer comme ça. Hein. Je te le dis honnêtement, je m'en contrebrande.
Parce que ouais, je suis désolé, mais quand on aime le football, quand on voit les 120 minutes là, on espère quand même que l'équipe qui a montré le meilleur jeu se qualifie. Après, on n'en fait pas tout un plat parce qu'on n'est pas irlandais.
Non, mais c'est pas ça. C'est pas parce que je suis irlandais ou pas irlandais. C'est parce que, comme ils l'ont dit à juste titre, si on dit que c'est un scandale, ce but, donc là on parle du but et pas de l'extra sportif, alors ça. Voilà, c'est ça que je veux te dire. C'est que là, on va pas juger une décision arbitrale, parce qu'en plus là on voit que l'arbitre est de bonne foi. Il est juste pas bien placé, mais il est de bonne foi. Hélas. Donc là c'est pareil, moi une décision, je suis pas d'accord. Donc bon.
Le problème en plus c'est que l'arbitre est très malchanceux parce qu'il y a deux mauvaises décisions dans la même phase. D'abord sur les sifflets. Il y a même pas la question de la main. Si on siffle directement hors jeu, Skilacci est en position très clairement hors jeu, il est en duel et donc le juge de ligne aurait dû lever son drapeau pour signaler le hors jeu. On n'aurait même pas parlé de la faute de main, je veux dire.
Qu'une chose qui peut arranger tout ça, c'est la vidéo. On est d'accord quand même.
Je dis, on parlera de la vidéo, mais là on va revenir à la Liga parce que ça fait quand même une demi-heure. Oui, parce que surtout que le débat de la vidéo, on va pas le régler en 5 minutes, hein, vous en doutez bien. Donc, pour revenir donc Athletic Bilbao Barcelona, Barça super moche, hein, c'est franchement nettement moins bon que l'an passé. Et il y a deux grosses énigmes pour moi, c'est d'abord Chigrinsky, hein, l'ours venu du royaume d'Harry Potter, hein, il est bof, même très 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 bof. Et ça contraste un petit peu avec la confiance qu'accordait par exemple Guardiola, mais comme Martin Cáceres, qui avait pourtant été extraordinaire à Huelva. Martin Cáceres, ancien de... Et pourtant, il lui a vraiment jamais fait confiance. Et quand il le faisait jouer, il le faisait jouer arrière-droit, ce qui n'est pas vraiment son poste. Chigrinsky, lui, on nous expliquait qu'il pouvait jouer arrière-droit, mais là, il joue tout le temps dans l'axe. Et pourtant, il est tout le temps mauvais. Il aurait dû se faire expulser, mais sur une agression encore, mais bon... Là, c'est l'arbitrage purement barcelonais. Généralement, pour qu'un Barcelonais se fasse expulser, il faut qu'il minimum viole la femme de l'arbitre, sinon il sort pas. Et puis, c'est exactement ce qu'on a vu ce soir-là. Mais sinon, sur le jeu du Barça, c'est franchement ultra, mais ultra, ultra mauvais. Après, on va pas faire tous les matchs, mais on va juste parler des deux grosses, entre guillemets, grosses équipes de la Liga. Donc, on va commencer par parler... pas d'une surprise, mais presque, hein. C'est Valence qui a donc gagné sur la pelouse très périlleuse de Osasuna. Ils ont gagné 3-1 grâce à un but de Lia Albelda Marchena pour un but de Massoud. Là où je disais que c'était une surprise, c'est parce que cette année ils sont quand même bien mieux, je trouve, tactiquement. J'aime bien la foule Roja qui me dit que Navarro de Albert, qui est définitivement leur meilleur duo de centraux depuis le début de saison, c'est d'autant plus que c'est pas des joueurs qu'on attendait à ce niveau-là, hein, surtout de Albert, parce qu'il arrive quand même de Castellón, qui est un club de deuxième division, donc c'était peut-être pas plutôt le mec qui était comme on va expliquer ça, mais le plus à même de tranquilliser cette défense-là. David Navarro, sur ligne connu pour son agression sur l'Inter avec le scandale qui avait eu lieu après. Donc en gros, lui, c'est le lâche qui met un pain et qui se barre en courant. Mathieu, à ne pas confondre avec le loser Polanyi, Mathieu, lui est en train vraiment d'exploser en Espagne. Et puis, je persiste à dire qu'il était le meilleur latéral gauche en Ligue 1 l'an passé, ces dernières années, et puis je trouve que c'est dommage que finalement il n'ait qu'une seule opportunité en équipe de France à prime. Vu son niveau, c'est dommage, parce que on en parlait déjà il y a quelques semaines, on disait que petit à petit il commençait à donner sa pleine mesure avec Valencia, et puis là ça se voit de plus en plus. Sinon, Sinon, le reste de l'équipe, c'est quand même de l'ultra classique, hein, parce que Albeda, ça fait longtemps qu'ils se connaissent, même si Martina a souvent joué en défense. Le fait de mettre plutôt Baraja ou Manuel Fernandez, c'est quand même bien plus judicieux pour l'entrejeu de Valencia. Et puis devant, franchement, devant, je me pose la question de savoir s'il y a une équipe qui a autant de joueurs de talent. Et ça peut pas être surprenant, hein, vu de France, mais quand on a Thomas Silva, quand on a Mata, quand on a Pablo Hernández, qui est le nouvel international espagnol aussi, quand on a
Juan. Ils sont tous jeunes, hein.
Tous, enfin jeunes, ça définit jeune. il va faire 28 ans en fin d'année, Joaquin il a 28 ans. Mais les autres, si, 28 ans, c'est pas non plus jeune.
Ça va.
Par contre, Evita, ça va, on reste sur ça va. Non, par contre, Silva à 23 ans, Pablo Hernández en a 24, Fmata il est encore plus jeune qu'eux. Je me rappelle plus exactement quel âge il a, mais il doit être de 88, je pense, ou de 87. Donc c'est quand même des gars qui ont vraiment de l'avenir. Et puis moi, je persiste à dire que Villa c'est un super, mais vraiment vraiment un super joueur. Bon, malheureusement, j'ai pas pu lire tout le poste de la Folia Roja parce qu'il nous a mis un pavé de 30 ou 40 lignes. Mais moi, sur ce que j'ai vu, je suis relativement d'accord avec lui. Et puis Villa, bon, c'est ça reste un super joueur. Après, je vais juste parler d'un autre joueur dont on parle moins, c'est Banega. J'en parle tout simplement parce qu'en équipe nationale, on a bien, enfin, en équipe argentine, on a bien besoin d'un mec comme lui. Et l'autre obèse continue de convoquer Gago. Donc, autant vous dire que c'est pas avec des solutions, c'est pas en prenant Gago en laissant Banega que la sélection argentine va gagner le mondial. Mais bon, sinon, sur le reste, Valencia, c'est quand même une grosse écurie cette année. Hein. Ils sont quatrième. 4 points du Real, donc il faut voir s'ils vont suivre le bon wagon, et surtout que théoriquement, on se disait que les 4 places de Ligue des Champions allaient jouer entre 6 équipes, donc Real, Barça, Séville, Valence, Villarreal et Atlético Madrid. On peut considérer que, vu l'avance considérable qu'a le Valencia sur l'Atlético Villarreal, ils sont très 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 bien placés pour finir 4e, voire tout simplement 3e. Hein. Après, le titre, c'est pas impossible, mais ça me paraît pas forcément réalisable, parce que défensivement ils sont quand même bons, mais faut voir si ce qui se passerait en cas de blessure. Et là, je suis nettement moins optimiste pour leur avenir. Mais sinon, je me répète et je le redis encore une fois, c'est franchement une superbe équipe. Et autant le fond de jeu n'est peut-être pas toujours exceptionnel, mais quand les mecs d'en haut décident de jouer tous ensemble, franchement, c'est assez monstrueux. Et puis on va passer au dernier entre guillemets gros club, c'est Villarreal qui a battu Valladolid. Donc Villarreal, c'est une équipe qui petit à petit est en train de sortir. Ouais, ils sont en train de sortir la tête de l'étau, quoi, parce que ils avaient très très mal commencé leur saison. Là, ça commence à aller, on va dire vachement, mais vraiment vachement mieux. Ils ont gagné le 3-1 avec enfin début de Neymar. Donc doublé de Neymar, but de Rossi. C'est un très très beau duo, ça c'est. Neymar, forcément, on en attendait énormément, parce que, et moi je me posais la question de savoir pourquoi Neymar était aussi bon avec le Brésil, parce que c'est en gros le super remplaçant, et pourtant quand il jouait avec Villarreal, c'était absolument pas ça. Donc moi je trouvais ça un petit peu dommage pour eux, surtout que un peu comme Valencia, ils ont quand même une superbe équipe, hein. Il y a des joueurs qu'on connaît en France, comme Pires, comme Senna, comme Capdevila. Ça, c'est les joueurs les plus connus, mais bon, il y a quand même des références en Espagne, comme la défense centrale, Godín, Marcano, c'est des mecs qui ont quand même fait plusieurs belles saisons, Diego Lopez aussi. Hier soir, ils jouaient pas, mais des mecs comme Santi Cazol, là aussi, Eguren, l'international uruguayen, c'est pas mal aussi. Et puis, il y a le petit Daniel Pudelo, il a eu pas du mal à s'imposer, mais mais tout comme. Et donc là, petit à petit, là, on a l'impression qu'il commence à s'adapter un petit peu à la Liga, parce que faut dire que lui, il arrive d'Argentine, il était à Vélez Sarsfield. Et franchement, hier, il fait un très très gros match. Il a un énorme potentiel, il a que 22 ans. L'an passé, il était prêt à Valladolid, où il n'a pas été exceptionnel, mais bon. Moi, je pense que... Surtout que c'est un joueur qui a déjà joué en sélection de jeunes argentines. Il est même champion du monde des moins de 20. Le titre qu'ils ont gagné avec la génération du Kun Agüero. Donc c'est une équipe qui est en train de se reprendre, et je pense qu'ils vont finir dans la zone UEFA, mais pour la Ligue des Champions, par contre, c'est râpé. Et donc, je donne rapidement juste les autres résultats. Donc, Malaga Zaragoza un partout, Jerez Sporting 0-0, victoire de Getafe à l'extérieur sur le terrain de l'Espagnol 2-0, Mallorca qui bat Almeria 3-1. À noter que Mallorca, c'est aussi une des belles surprises, parce que c'est une équipe qui ne perd absolument pas cette saison à domicile, donc dans les Baléares. C'est un des déplacements les plus périlleux, et donc le classement, donc ça donne toujours Real Madrid premier 28 points, Barcelone 27, Séville 25, Valencia 24, Deport 22, Mallorca 20, et puis ensuite, bon, je donne juste quelques équipes, Villarreal 11e à 12 points, l'Atlético et Racing, Atlético, Jerez 7 points, et puis le dernier, c'est Malaga 6e. Et pour conclure, comme d'habitude, je conclue avec le classement des buteurs, pour faire plaisir à la Folia Roja, donc Bia premier 9 buts, Ibrahimovic et Messi 7 buts, Pandiani 6 buts, et l'autre sur la grosse surprise, c'est Keita 6 buts. Voilà, donc pour faire une autre dédicace à Khaled, on a fait un très très grand tour sur l'Espagne. je rigole, 3 minutes bon, après en plus.
Après ce rire... Ce rire.
Bizarre.
J'ai une question, Habib.
Vas-y.
Une question sur Villarreal, une question que je me pose. Est-ce que Pires, au jour d'aujourd'hui, a le niveau pour être objectivement dans les 23 dans l'équipe de France?
On prend bien le Grémy.
Non, mais.
Non, c'est. Parce que là, c'est. Tu fais ça par. Là, pour le coup, là, tu compares. Tu oublies de comparer ce qu'il y a. Et ce qui peut. Oui, bien sûr. En plus, tu peux le faire jouer en. Parce qu'on parle en équipe de France de voir qui est associé à la Sanadiara. Tu mets la Sanadiara à Pires au milieu de terrain, ça peut le faire. Hein. Il faut un mec. Pris, il faut un mec. Ouais, il sera jamais pris. Hein. Il a niqué
Estelle. Non, mais voilà, il
a niqué Estelle.
Estelle est passée par là.
C'est vrai, il a niqué Estelle. Hein.
Bah, il y en a qui ont fait des choix de carrière. Il hein. Y en a qui partent en Angleterre, il y en a qui niquent Estelle.
C'est comme Benzema, apparemment son délai c'est parce qu'il aurait dit qu'Estelle était bonne. C'est malheureusement des choses très sérieuses.
Finalement, plus beaucoup de monde va jouer. Je te promets que bientôt on va devoir rappeler Jurietti.
Non mais je te dis, d'après ce que... je sais plus qui l'a dit, c'est un ancien, je crois que c'est Dimeco, ouais, je pense que c'est Dimeco d'ailleurs, parce qu'il y a le Dimeco pour sortir ce genre de truc. Il s'en fout de se faire griller des autres bleus. Il a dit, il aurait tenu des propos désobligeants. Bon, j'imagine que c'était ça, ou l'autre.
Qu'est-ce que je mettrais bien dans le cul, ou oui, on se doute un peu.
Ah, tu le saches, parce qu'il est minuit en fait. Je savais pas, sinon, si j'aurais pas dit Nick et Estelle, j'aurais dit mieux. Donc évidemment, c'est.
Bonjour Estelle, si elle nous écoute.
Mais bien sûr qu'elle nous écoute.
Ah, ça se trouve, elle se prend un coup, là, et puis on sait pas.
Voilà.
Mais c'est bizarre, Raymond, il l'a pas demandé en mariage, là, après la qualif.
Non, il a eu la main d'Henri, c'est bon.
J'étais sûr qu'elle allait faire la film, là.
Ouais, la vanne de merde, comment
elle fait rire que les Français, celle-là.
Ouais, mais oui,
elle fait rire que Renaud, je crois.
Bah oui, mais c'est pas mal, c'est bien trouvé, quoi.
Bon les gars, avant que ça parte dans les blagues grasses sur Estelle tout ça, on va se dire au revoir. Je pense que
3h15.
3h15.
Toi-même tu sais pas. Attends, avant de conclure, je vais demander la permission à Patron de dépasser franchement les lignes. Puis-je ou pas? J'attends la confirmation. Rappelle le classique. Ouais, c'est toi. Je rappelle le classique. Ouais. Ouais, donc évidemment, émission spéciale Barça-Real ce dimanche soir. Et ouais, j'attends juste un oui en fait à l'écrit pour dire ce que je pense vraiment des stades de nuit. Arban, tu dis oui?
Après, on conclut très vite.
Voilà. C'était très très classe. Très 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 classe. Le summum de la finesse. Voilà.
Voilà. Donc, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter pour ce soir. Donc, on se dit rendez-vous cette semaine, donc mardi, mercredi pour les débats sur la Ligue des Champions. Je pense plus mercredi que mardi même. Ouais. Sinon, le Classico ce week-end, n'oubliez pas, émission spéciale. On remercie à tous les auditeurs. Coucou tout mou. Et à bientôt sur Génération Soccer. Et merci aux deux nouveaux. Merci à Renaud. Merci à Loïc, si je me trompe pas.
Non, tu te trompes pas.
À bientôt sur les ondes de Génération Soccer.
Bonne soirée.